I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le podcast Culture PG du mercredi 22 novembre 2023, on est sur un jour un peu particulier, un horaire un peu spécial. On a, comme je l'avais promis, un thème aussi très spécial. Donc on ne va pas revenir sur un match cette semaine ou un thème d'actualité spécifique au terrain. On va plutôt parler, comme lors des deux dernières trêves internationales, des métiers qui sont autour du PSG. Le thème du soir, c'est en quoi est-ce spécial de travailler sur le PSG, qui n'est pas tout à fait le club le plus stable et le plus commun de France, on dira. On est trois, puisque c'était un peu compliqué à organiser et qu'on ne peut pas les retenir trop longtemps, donc on a décidé de prendre que deux intervenants cette fois-ci. Le premier, vous le connaissez peut-être, il est journaliste dans la presse écrite, il travaille à L'Équipe, c'est Hugo Delon. Bonsoir Hugo.
Salut Philo, salut à tous.
Voilà, le deuxième, il avait déjà fait un podcast avec nous, c'était sur comment on vit un match depuis le bord du terrain. Vous allez le retrouver dès vendredi sur Prime Video. Bonsoir David Aiello.
Salut à tous, ravi d'être avec vous.
Voilà, donc bonsoir.
À nouveau.
Oui, à nouveau. Mais c'est vrai que le podcast sur les métiers un peu du bord du terrain, il y avait, donc tu étais venu, on avait fait venir aussi deux photographes. Il y avait François et il y avait Xavier Lenné. Et on ne sait plus qui était le quatrième. C'était Julien Froment, je crois, d'Europe 1. De France.
Non, non, c'était pas Julien, parce que Julien m'en a parlé, il m'a dit qu'il l'a écouté. Donc je sais que c'était pas Julien.
J'ai un doute, le quatrième, bah non, c'était moi le quatrième, je suis bête, s'il y avait toi, voilà. Plus les deux photographes, c'était forcément moi le quatrième. Voilà, les comptes commencent bien. Vous savez, la trêve internationale, ça nous fait pas que du bien, hein, c'est terrible. Et puis Julien Froment, d'ailleurs, n'est plus du tout sur Europe 1 et sur France Info, Radio ouais. France désormais.
Cette introduction, France, Philo, ouais. Cette introduction est totalement ratée.
C'est terrible.
C'est vrai.
Du grand niveau.
C'est évident, c'est terrible. On commence sur des très mauvaises bases.
Ah là là, vous voyez, c'est un métier hein, de présenter des trucs, hein. Bah, c'est pas le mien, clairement. Mais bon, en tout cas, on me dit heureux de vous retrouver. Bah écoutez, de même. On va commencer en fait par... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, David, il est un peu sur tous les terrains de Ligue 1, il prend une vidéo. Et toi, Hugo, tu es un des 5 journalistes de l'équipe qui suit le PSG au quotidien. C'est bien ça?
Exactement, voilà. On est 5 maintenant depuis un an. Et il y a mon collègue Loïc Tanzi, que vous connaissez, Arnaud Hermand, Damien Degore et José Barroso.
Voilà. Et avant de travailler sur le PSG, tu as fait d'autres clubs. Tu
m'as expliqué. Ouais, bah c'est un peu comme dans tous les métiers en fait. On commence par des clubs un peu plus modestes, peut-être même en Ligue 2 parfois. Et puis après, progressivement, si ça fonctionne bien, on monte sur des clubs différents et des clubs plus huppés. J'ai commencé par des clubs comme Toulouse, j'ai fait Valenciennes, après j'ai fait Sochaux. Je suis passé par l'équipe de France Espoir et puis après un petit peu Marseille et puis le Paris depuis 2017 maintenant.
Je me souvenais de toi sur Valenciennes, Sochaux, tout. Je savais pas que tu avais fait l'OM.
J'ai
aussi.
Fait un an l'Olympique de Marseille, ouais. J'ai fait un an d'Olympique de Marseille à l'époque de Mitchell, la fameuse année, où il y avait la Sanadira, qui était quand même l'intérêt de cette année-là. Mais j'ai fait un an, ouais. Et après, je suis allé sur le PSG, tout à fait.
D'accord. Ouais, tu fais partie de ces transferts Marseille-Paris dont on ne parlera pas ce soir,
c'est ça.
Mais qui font partie aussi du story foot. Bah écoute, ça tombe bien. Le premier thème que j'ai mis, c'est l'organisation du PSG avec la presse. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que vous êtes nombreux, le PSG, comme tous les clubs, comme toutes les A, des attachés de presse. Actuellement, si je ne me trompe pas, ils sont au moins 3 pour la partie française et 1, si ce n'est 2, à la partie internationale. C'est bien
ça, ouais.
C'est ça. Est-ce que, David, puisque tu prends la parole, est-ce que c'est différent de ce qu'on peut voir dans les autres clubs en termes de nombre ou d'organisation?
Ouais, forcément, il y a... De fait, il y a beaucoup plus d'intérêt et d'attention médiatique autour du Paris Saint-Germain. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement plus, ils sont plus staffés. Hein. Souvent, là, on vient de dire, donc, si on compte également le directeur de la communication qui est quand même très régulièrement présent, en tout cas sur les matchs. Donc, ils vont être systématiquement 3, voire 4 sur les matchs. Là où les autres clubs sont plutôt 2, même parfois 1 en déplacement. Ça arrive souvent qu'il y a un seul représentant de la communication en déplacement pour les clubs. Donc déjà, tu vois, on voit bien qu'on n'est pas sur dans la même dimension. Donc il y a une organisation qui est différente. Il y a également parfois, tu le sens bien que c'est pas c'est pas la même approche, quoi. C'est-à-dire que tu as des clubs qui sont encore un petit peu à l'ancienne, tu sais, on a souvent dit le football à papa, alors tu as des clubs qui fonctionnent encore un petit peu comme ça, avec une approche qui est. Et c'est pas une critique, hein, que je formule là, c'est juste tu vois bien que ils ont pas les mêmes. Il n'y a pas la même pression, il n'y a pas les mêmes enjeux. Pareil, tu as des enjeux politiques aussi, hein, je veux dire, Nasser El Khelaïfi, les ministres d'État. Donc, forcément, c'est pas les mêmes implications. Donc, tu vois bien que Paris, dans la dimension médiatique, c'est comme pour le reste d'ailleurs, comme pour la dimension économique, sportive, c'est presque hors Ligue 1, quoi.
Ouais, et toi, tu parles là de des fois un seul, c'est même sur des petits clubs de Ligue 1, par exemple.
Oui, même sur une grande partie des, ouais, on va dire une bonne moitié des clubs de Ligue 1, en déplacement, il y a un seul. Une seule personne de la presse qui vient, quoi. On a un attaché de presse. À domicile, bien sûr, il y a souvent le directeur de la com qui est là également. Quand ils sont deux, bah, ils seront deux à être là. Mais en fait, moi, c'est un truc qui m'a souvent étonné, c'est que les attachés de presse ne sont pas toujours présents sur les matchs de Ligue 1. C'est-à-dire que bon, ils prennent des week-ends. Bon, pourquoi pas, mais. Donc, du coup, en tout cas, oui, ça tourne. C'est-à-dire que, comme je le disais, à Paris, ils sont au grand minimum deux, mais très souvent trois. Parfois même 4 sur les matchs, ce qui n'est pas du tout le cas d'une très grosse majorité de la Ligue 1. Oui.
Et toi, Hugo, qui a connu, bah, je pense, l'autre club français le plus médiatique, Marseille, ils en ont combien à l'OM, par exemple, des attachés de presse et.
Alors, actuellement, je n'ai pas le chiffre en tête parce que je ne les côtoie pas de quotidien maintenant. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Mais dans mon souvenir, à l'époque, ils étaient 3 ou 4. Le fonctionnement, voilà, en termes quantitatifs, nécessairement, quand tu es à Paris, il y en a plus. Mais comme le disait David, la règle aujourd'hui sur la quasi-totalité des clubs de Ligue 1, il faut vraiment être très clair par rapport à ça, c'est un attaché de presse à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment la règle. Allez, il y en a peut-être à Lyon, Marseille. Paris donc, mais sinon la règle c'est vraiment très peu hein, au bord du terrain. C'est vraiment de ce point de vue-là, ouais, une personne au maximum.
Et c'est vrai que le PSG, je pense, enfin, à confirmer, mais pour moi, c'est le seul à avoir un attaché de presse pour la presse étrangère, justement, qui est. Parce que je vois pas.
À plein temps, oui,
Ouais.
clairement. Et comme tu l'as dit, ils ont même été deux à un moment. Enfin, il y avait une personne qui était à cheval sur d'autres activités de la branche communication du club. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, on se rend bien compte que la demande internationale, même si elle a sans doute un petit peu baissé avec le départ avec les départs de Messi et Neymar, la dimension internationale du PSG, elle est unique. Alors, après, tu peux avoir des one-shots un petit peu comme ça dans des clubs. Ou tu vois parfois, tu vois si tu as un joueur japonais ou enfin voilà, tu peux avoir des demandes spécifiques sur un club. Je sais que ça c'est déjà arrivé notamment du côté de Monaco, où là tu vas avoir un renfort un petit peu spécialisé. À mon avis, c'est peut-être même des consultants ou des choses comme ça qui viennent prêter main forte, quoi.
Ouais, et puis t'as des trucs de vraiment communication, genre community manager. Je sais que le PSG, par exemple, a créé un compte coréen sur Twitter dans la foulée, pardon, de l'arrivée de Lee, qui est régulièrement actif, tout ça. Mais ça, c'est pas souvent, c'est des boîtes externes, par exemple, pas forcément des mecs du
C'est
club.
ça,
Voilà.
exactement.
Et quand je dis quand on parle des trois du PSG plus la personne pour la communication extérieure, c'est uniquement pour l'équipe première foot. Il y a encore d'autres personnes pour le
Bien
hand, pour
sûr,
les
ah oui,
féminines,
ah oui,
voilà.
non, ah oui, ce dont on parle, c'est la section foot. Après, il y a même un attaché de presse chargé du centre de formation. Il faut voilà, qui s'appelle Mathieu, qui était avant sur l'équipe première. Donc là, oui, ce dont on parle, c'est uniquement la section de l'équipe première. Et puis après, il y a effectivement un attaché presse pour le basket, du handball. D'ailleurs, régulièrement, ils font des transferts entre les différentes sections. Il y a des gens qui étaient à la section foot auparavant, quelqu'un comme Timothée Lemoine, qui est passé ensuite au handball, etc. Donc il y a des ponts qui se font entre les différentes sections.
Oui, c'est le même club malgré tout, faut le savoir.
C'est ça.
Non mais c'est vrai qu'il
Il y a le judo également.
De quoi, pardon?
Il y a le judo également, le
Oui, c'est
section
le
judo
judo, oui.
également. Même chose.
Bah, d'ailleurs, l'intérêt du campus PSG, c'est notamment de regrouper un peu toutes ces sous-sections qui sont explosées un peu partout dans l'Ouest parisien globalement, quoi. Est-ce qu'il y a, parmi un peu cette organisation du PSG qui est finalement assez classique, une particularité malgré tout selon vous? T'as vu
Je vais
un.
plus.
Ouais, vas-y, Hugo.
David. Non, David, je vais laisser parler, David.
Oh non, vas-y, s'il te plaît. Je vois pas en plus là, spontanément, je vois pas, mais dis-moi.
La
Dis-nous.
spécificité en termes d'organisation, tu veux dire, Philo?
Ouais, d'organisation, ouais, vraiment.
Moi, je ne ressens pas de différence par rapport au club que j'ai connu auparavant, plus modeste. On reviendra sur le fond ensuite, sur la manière dont eux on gère leur relation presse, mais sur le fonctionnement, il n'y a pas de grande différence. Voilà, il y a une conférence de presse qui est hebdomadaire, bi-hebdomadaire quand il y a la Ligue des Champions, mais il n'y a pas une méthodologie différente, moi, me semble-t-il, dans les clubs, par rapport aux clubs de Ligue 1 que j'ai suivi. Après, il faudrait voir par rapport aux clubs étrangers, mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a une méthodologie différente quand il s'agit du PSG. Après, sur le fond, sur la manière de faire de la communication, on y viendra ensuite. Il y a des vraies différences en fonction des clubs, et là, spécifiquement sur le PSG. Mais sur la méthodologie pure, me semble-t-il, David, peut-être tu ne seras pas d'accord par rapport à ça, mais moi, il n'y a pas d'immense différence par rapport à ce que j'ai connu dans les différents clubs de Ligue 1 que j'ai suivis, et puis même dans les différents clubs de Ligue 1 auxquels je suis confronté maintenant depuis que j'ai commencé ce boulot depuis une quinzaine d'années.
Donc je pense que David.
Ouais, non, je suis.
Ouais, voilà.
Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, de toute façon, le schéma, c'est le schéma d'un grand club ou même, comme on dit parfois, d'une grande marque mondiale de sport. C'est-à-dire que pour avoir fait pas mal de matchs de Ligue des Champions et en particulier du PSG, bon, tu vois bien que ça fonctionne à peu près de la même manière. En plus, de toute façon, il y a plein d'égards, tu n'as pas le choix, puisque par exemple, puisque nos auditeurs ne sont pas forcément au courant, mais il y a plein de choses qui encadrent en fait de manière presque réglementaire la communication des clubs. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, la conférence de presse de veille de match, elle est obligatoire avec un joueur, avec l'entraîneur. Et la même chose également en Ligue 1, même si la date, c'est pas H-24, elle est pas forcément fixée. Donc, il y a tout un tas de choses qui, de toute façon, font que l'agenda, la communication d'un club pro aujourd'hui, il est de toute façon assez régulé. Donc, tu fais pas de toute façon... De toute façon, en gros, ils font le minimum. Hein. Ils font le minimum syndical et le minimum presque vital. Je dis vital dans le sens où, il n'y a pas longtemps, j'avais une discussion justement avec des gens de la com du Paris Saint-Germain qui me faisaient remarquer, et je pense qu'ils ont raison, qu'aujourd'hui, je pense que les coachs en particulier sont beaucoup trop sollicités par les médias. C'est-à-dire qu'il y a trop d'ayants droit, il y a trop de médias présents et en fait, il y a trop de sous-interventions, d'interventions différentes qui font que, je sais plus, il m'avait donné le chiffre, mais je crois qu'on avait parlé de 17 interventions, je crois, sur un match de Ligue des Champions pour Luis Enrique, c'est-à-dire tout média confondu, parce que il y a les ayants droit, donc les diffuseurs qui payent la diffusion de la Ligue des Champions, il y a le passage en conférence de presse, il y a la zone mixte, il y a tout un tas de... Il y a les médias du club, etc. Et en fait, tout cela est compartimenté. Donc, alors des fois, on reproche après au coach d'être langue de bois ou parfois de se planter dans leur com, mais on va pas les plaindre, hein, c'est pas l'usine comme boulot. Mais c'est devenu quelque chose quand même de très particulier, qui conditionne un petit peu la communication. Et ça, pour le coup, c'est, pour en venir à ta question, Philippe, c'est pas une particularité du PSG, ça rejoint ce que je disais au début, c'est que c'est le fonctionnement des grands clubs aujourd'hui et t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas sur cette partie-là. Après, comme disait Hugo, il y a plein de choses à dire qui sont particulières à chaque club. La seule particularité finalement que je donnerais à Paris, et ça c'est presque unique d'ailleurs en Europe, c'est la présence des médias, enfin le centralisme de la France qui fait que tous les médias sont à Paris et que du coup dans ton organisation, tu as beaucoup plus de médias évidemment qu'ailleurs en France et même peut-être pas qu'ailleurs. En Europe, parce que enfin, ce que je veux dire, c'est que à Londres, évidemment, c'est encore plus dilué parce que tu as 6, 7, 8 clubs en première ligue. À Madrid, tu vas avoir 2 ou 3 clubs, etc. Donc, il y a cette particularité, c'est pas une question d'organisation, mais il y a cette particularité à Paris qui est que tu es le seul club de la région parisienne et il se trouve que tous les médias, tous les grands médias sont installés à Paris. Donc, ça change un petit peu, ça change beaucoup de choses, notamment dans la façon de travailler, je pense, du club. Parce qu'ils ont une gestion de demande, de flux médiatique qui est hors norme.
Je voudrais revenir à ce que tu disais, David, là, c'est intéressant, sur l'exercice intellectuel que représente l'après-match pour le coach. On en avait discuté en off avec un entraîneur récent du Paris Saint-Germain, et il nous expliquait, je fais une petite intermède là-dessus, c'est intéressant que pendant trois quarts d'heure, une heure, c'est un exercice intellectuel à part entière. Il faut, donc tu sors d'un match, tu es épuisé, victoire, défaite ou nulle, peu importe, tu es épuisé parce que tu as une victoire, et donc tu as une heure d'exercice médiatique, que ce soit en conférence de presse, mais bien sûr avec les ayants droit. Et il nous disait qu'il sortait de cette séquence où il faut être quand même relativement concentré dans la mesure où il faut tenir son propos et avoir une direction, surtout avec les enjeux du PSG, avec les égos des différents joueurs, totalement lessivé de cette séquence-là. Et ça pouvait amener ponctuellement à des erreurs parce que à un moment donné, voilà, pendant une heure, tu maîtrises ton propos et sur, allez, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, tu vas laisser échapper ton discours et ça peut créer, voilà, toutes les conséquences qu'on peut avoir au PSG. Et je pense vraiment que c'est un exercice qui est pas simple sur le plan intellectuel. Alors, bien sûr, David a raison, on va pas les plaindre, mais voilà, c'est intéressant parce que ça peut provoquer des erreurs de communication. On reviendra au fond tout à l'heure, mais ça peut provoquer des erreurs de communication chez les entraîneurs, et notamment ceux des grands clubs européens, en raison de ce rythme-là, en raison de l'intensité et du nombre de délits en droit et du nombre d'interventions à faire ensuite. Et voilà. Et après, je sais pas si vous vous souvenez, Galtier s'était fait avoir parce que il avait été ensuite, je me souviens, une fois où devant les caméras de PSG télé, et je me souviens plus exactement son propos, mais il avait dérapé, ou en tout cas il avait pas tenu son propos devant PSG télé, ce qui avait créé une polémique. Tout ça pour vous dire que l'exercice médiatique est quelque chose d'assez éprouvant et c'est assez intéressant à analyser de ce point de vue-là, notamment sur les grands clubs comme le PSG.
Ouais, pour illustrer un peu ce que tu dis, aujourd'hui, quand les entraîneurs enchaînent les obligations médiatiques de fin de match, vous pouvez retrouver les mêmes phrases, copier-coller, texto, les mêmes éléments de langage qui vont répéter à tout le monde. Le seul moment en fait où ils vont sortir un peu de ce cadre, c'est quand la question n'est pas sur un thème qu'ils auront anticipé.
Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est marrant parce que parfois, on l'a vu avec Luis Enrique, mais on reviendra au sujet tout à l'heure, mais là, pour faire un petit intermède là-dessus, quand Luis Enrique, après Reims, explique à trois médias différents, que Mbappé, il a marqué un triplé, mais il n'a pas fait un bon match par ailleurs, c'est qu'il a un message à faire passer. Sinon, ce serait sur un seul pôle, en l'occurrence la conférence de presse, Prime Video ou Canal, mais en l'occurrence, là, qu'il le refasse trois fois, ça signifie qu'il avait vraiment un message à faire passer. Voilà. Et... intermède refermé. Parenthèse refermée, ouais.
Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que c'était pas toi, David, qui avait fait l'interview parce qu'il était sur le plateau avec Thibault Leroy et tout. Mais on voit au départ une sorte de jeu d'acteur. Ah, en fait, Mbappé, je suis pas comme s'il le découvrait à ce moment-là, alors que c'était évident que c'était une sortie qu'il avait prévue avec son staff et tout ça. Donc.
Ouais, mais qui a d'ailleurs été, parce que c'est vrai que cette séquence elle est intéressante à décrypter, c'est qu'il a cette première, puisque là aussi on raconte un petit peu les coulisses, un petit peu comment ça se passe quand on dit que tout est normé. Se trouve que le diffuseur national du match est prioritaire, c'est chez lui que l'entraîneur vient en premier et les joueurs également avant d'aller chez le deuxième diffuseur, par exemple Canal en l'occurrence, ils sont présents, chez Free ensuite, puis après en conférence de presse, etc. Donc il est d'abord venu chez nous et en fait, du coup, comme il y a eu d'abord cette unique sortie dans un premier temps, on s'est demandé, même nous en interne, et puis je sais qu'au PSG aussi, ils se sont demandé un petit peu ce que c'était, si c'était de l'ironie au départ, parce que c'est vrai que Mbappé met un triplé, lui dit, Thibault lui demande est-ce que vous êtes satisfait de son match, et il dit non, pas du tout, quelque chose comme ça, mais il le dit en rigolant, donc au départ tu te dis attends, qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est vrai que derrière il développe une première fois dans sa réponse une minute d'argument pour expliquer ce qui ne va pas, donc là tu commences à te dire c'est sérieux, et puis comme le disait Hugo à l'instant, le fait qu'il répète les arguments derrière en conférence de presse et chez d'autres ayants droit également, tu te dis ah oui, donc là il se passe quelque chose. Mais ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, parce que quand je l'ai entendu là, j'ai pensé à quelque chose qui est peut-être également une particularité, c'est que et qui n'est pas évident à mon avis avec Luis Enrique, c'est que un des rôles des missions des attachés de presse et des directeurs de la communication, c'est évidemment de briefer un petit peu les joueurs, de les aider dans leur communication, qui est parfois d'ailleurs un petit peu problématique parce que ça donne lieu parfois et même souvent des réponses un peu robotiques, hein. Je ne parle pas spécialement du PSG mais en général, mais justement les attachés de presse du PSG avant chaque interview viennent briefer rapidement le joueur pour lui donner des petits consignes de com, mais certains clubs le font pas, par exemple, voilà, ça fait une particularité, c'est que certains clubs envoient leurs joueurs comme ça un peu alors on peut se dire que c'est un petit peu peut-être mal joué de leur part, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est voulu ou pas, de se dire, laissons-le parler, il sera plus naturel. Mais du coup, tu t'exposes effectivement à ce qu'il puisse y avoir des erreurs de com' de la part des joueurs, dont ce n'est pas le métier, vous le rappelez. Hein, je veux dire, ils sont pas, certains maintenant sont formés en formation, ils sont quand même dans du media training de plus en plus, etc. Mais ce n'est pas toujours évident pour eux. Donc voilà, là, il y a aussi une différence là-dessus, c'est que les grands clubs brief les joueurs et l'entraîneur, ce que ne font pas des clubs un petit peu plus moins cotés, quoi, on va dire.
Genre après, le SMS,
la similitude. le SMS n'a pas briefé Endoram, par exemple.
Voilà.
Oui, pour le coup, c'était avec moi en plus, donc c'était avec
Non,
moi, mais
trop...
bon, c'était une séquence en particulier. Ouais, vas-y, vas-y, continue.
Non, non, et pour les similitudes, Philippe, par rapport à ce que tu, la question que tu posais tout à l'heure, ou la spécificité ou les similitudes, parmi les similitudes, les grands clubs français et même les clubs les plus modestes, par exemple, quand tu fais une interview individuelle au Camp des Loges à l'époque et maintenant à Poissy, il y a toujours un attaché de presse présent. Et ça, ce n'est pas spécifique à Paris. Sur les grands clubs français, européens, voire les clubs les plus modestes, il y a un attaché de presse dans la pièce qui régulièrement, en tout cas pour les grands clubs, enregistre la conversation que tu as. Donc là, de ce point de vue-là, c'est très similaire entre les différents clubs français et européens. En tout cas, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview dans des clubs plus modestes, mais en tout cas, sur les dernières années, il y a toujours un attaché de presse présent dans la pièce qui enregistre la conversation que tu tiens avec ou l'entraîneur ou le joueur.
Oui, pour t'éviter des problèmes, enfin pour éviter au
De
club,
retranscription,
voilà.
exactement. Voilà. Alors au début, ça fait bizarre parce que c'était pas la règle quand j'ai commencé ce boulot-là. J'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça, mais voilà. Aujourd'hui, en tout cas, depuis une petite dizaine d'années et depuis donc au PSG, moi, j'ai connu que ça.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est vrai que ça, tu vois, je me demande à quel point c'est inspiré de ce qu'a pu se faire notamment à l'étranger. Parce que ça, par exemple, je suis à peu près certain que ça vient des médias anglais. Par rapport au tabloïd qui adore couper un bout de phrase, de changer de contexte et tout ça, qui est une grande spécialité des tabloïds anglais. Donc, quand je dis tabloïd, c'est pas la presse réputée qui représente le Guardian, le Télégraphe, tout ça. C'est genre le Sun, le Daily Mail, le Daily Star, qui vous inventent des bouts de phrase que le mec a dit 5 ans avant et qui vous disent en petit, en bas d'article. Ah, au fait, cette phrase, il l'a dite il y a 5 ans. Voilà, je pense que c'est entre autres par
Ouais,
rapport à
c'est
ça.
sûr. Après, c'est vrai que c'est lié aussi à la pression, enfin l'augmentation de la pression qui règne sur les clubs. Pour le coup, je me souviens avoir fait des interviews au Camp des Loges il y a très longtemps, où on te laissait. Déjà, on avait des entretiens individuels, ce qui est plus forcément le cas. Enfin, c'est difficile aujourd'hui. Et les attachés de presse, enfin, l'attaché de presse, d'ailleurs, il y en avait qu'un, tu vois, à l'époque au PSG, ils te laissaient dans le. C'était des Algécos. Hein, on est très très loin du centre de Poissy. Il y a des Algécos au Camp des Loges pour qui faisaient office de salle de presse, et il te laissait dans l'Algeco avec le joueur. Il disait, bon, t'en as pour combien de temps? 20 minutes, je reviens dans 20 minutes, quoi. Tu vois, l'attaché de presse participait pas forcément
Ah, c'est un autre
à l'interview, quoi. Donc,
Ouais, c'est un autre monde, effectivement. Ouais, ça,
c'est
j'ai
un
pas
autre
connu.
monde. Et...
Juste, non, c'était un autre temps. Tiens, question, Hugo, par rapport à toi, est-ce que tu ressens, par exemple, toi qui donc tu fais partie des 5 de l'équipe, est-ce que tu ressens une sorte de défiance dans ces interviews par rapport aux médias que tu représentes?
Des joueurs, tu veux dire,
Une
de la part des
certaine
joueurs?
défiance, oui, des joueurs notamment.
Non, parce que la plupart du temps, ce sont des joueurs étrangers, donc ils savent pas ce que représente l'équipe. Même les joueurs français aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils aient un lien direct avec les médias, que ce soit l'équipe ou autre. Hein. Ils sont dans un monde les joueurs du PSG, en tout cas. Hein, je parle quand tu interviews quelqu'un, un joueur sans vouloir être méprisant, d'un club plus modeste, il sait très bien ce que représente l'équipe, parce qu'il le lit tous les matins, ou en tout cas il va regarder l'équipe.fr, il regarde la chaîne l'équipe, donc la marque lui parle. En revanche, quand tu es un joueur du PSG, allez, prenons cette année quelqu'un comme Ugarte, je pense pas qu'il sache vraiment ce que c'est que l'équipe. Peut-être que son entourage va lui dire, mais aujourd'hui, ça me paraît improbable qu'il le sache. Alors, la présence de joueurs français, peut-être que je change un peu la donne. C'est-à-dire que quelqu'un comme Randal Kolo Muani, je pense que voilà, il doit savoir ce que c'est que l'équipe, etc. Mais je ne sens pas de défiance par rapport à ça. On a fait des interviews ces derniers mois avec des joueurs étrangers, et je pense qu'ils nous perçoivent comme voilà, un média comme important, mais il n'y a pas de défiance par rapport à ce que représente l'équipe. En tout cas, ils l'ont jamais fait ressentir, et je l'ai jamais senti de cette manière-là, clairement.
Et t'as jamais eu de joueur qui t'a dit non, non, je ne peux pas donner une interview parce que c'est l'équipe, quoi.
Alors, ça a été à une période, mais ça, c'était il y a 3-4 ans. Rappelle-toi, Philo, qu'on était en conflit avec le club. Mais ça venait davantage du club que des joueurs. C'était des joueurs qui craignaient la réaction du club par rapport à même en sélection, et qui me disaient, je vais me mettre en difficulté si je réponds aux questions de l'équipe. Mais ce n'était pas par rapport à l'équipe en tant que telle, c'était par rapport à du positionnement de leur club à ce moment-là.
Oui, c'est leur employeur qui leur disait, attends,
C'est
tu
ça,
peux pas, voilà,
exactement.
la ligne
Exactement.
de la société, c'est ça, tu peux pas aller faire le mariole parce que t'es en stage ailleurs, quoi. Donc
C'est
ouais.
ça, en fait. Mais après, il y avait des joueurs qui avaient suffisamment de poigne et qui avaient suffisamment d'indépendance pour nous accorder aussi à l'époque des interviews. Attention, hein. Je me souviens d'avoir fait des joueurs français en équipe de France, voilà exactement, où voilà où mon collègue Damien l'avait eu en équipe de France, et voilà, et alors que le PSG était en conflit avec l'équipe à l'époque, et qu'il avait dit bah voilà, moi c'est une interview qui m'intéresse, c'était un angle, je me souviens plus exactement lequel, qui m'intéresse, je le fais. Et puis il était passé outre la position de son club, ce que j'avais trouvé très bien dans la mesure où l'interview avait donné quelque chose de vraiment intéressant. Mais pour répondre à la question, non, j'ai pas, pour répondre à ta question, Philo, j'ai pas re je ressens pas de défiance du tout par rapport à mon média.
D'accord. Tiens, est-ce que Neymar connaissait l'équipe, on me demande?
Je sais pas, je sais que ses représentants, ça, clairement, connaissaient l'influence de l'équipe, clairement, et puis ils connaissaient le Ballon d'Or avec à travers France
Ah oui.
Football, donc c'était une
Ouais.
maison qu'ils respectaient. Je parle de ses représentants. Après, est-ce que Neymar en personne connaissait l'équipe? J'en doute,
Ouais.
mais ses représentants, ils savaient très bien qui en était et qui en étaient les aussi indirectement les représentants du Ballon d'Or. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Fais une petite parenthèse sur Neymar. Je ne sais pas effectivement si il mettait simplement pas de visage sur les gens de l'équipe, mais j'ai quand même remarqué pendant son passage à Paris qu'il avait quand même une, on va dire une véritable sensibilité médiatique, c'est-à-dire que qu'à chaque fois qu'il fallait passer en zone mixte, il le faisait quand il avait des messages à délivrer. Et je me rappelle, parce qu'à l'époque, je travaillais en zone mixte, je n'étais pas chez Prime, que je le voyais parfois passer devant les médias français parce que ça ne l'intéressait pas, et qu'il allait directement voir, au fond, il y avait les quelques médias brésiliens qui étaient représentés, dont les plus gros qui étaient là, dont au Globo, etc. Et il savait aller leur parler à ce moment-là parce qu'il avait des choses à leur dire. Quand ça concernait quand c'était une affaire nationale, il savait s'arrêter. Et là, tu vois, il n'y avait pas forcément ses conseillers avec lui, donc il avait quand même un petit peu cette. Moi, j'ai trouvé qu'il était très très malin d'un point de vue comportement médiatique. Il avait très très bien compris comment ça fonctionnait la machine médiatique, quand est-ce qu'il pouvait les utiliser. D'ailleurs, combien de fois il y a eu des petits messages où il a juste donné des petites phrases comme ça, dont il savait très bien que ça allait donner lieu à interprétation quand il s'agissait de renégocier son contrat, etc. Il allait dire bon. Peut-être que je retournerai à Barcelone, je sais pas quoi. Toutes ces petites phrases-là, je trouvais très très malin de ce point de vue-là, en tout cas.
Pardon, il savait très bien s'arrêter quand il fallait en zone mixte. Et à ce niveau-là, il était redoutable, hein, parce que il y a eu des moments où il n'a pas parlé pendant 6-8 mois, et puis des fois, quand il y a d'autres trucs qui lui allaient pas, hop, tu le voyais 2 fois en 3 semaines. Je me souviens cette sortie quand il va qualifier le PSG à Manchester en phase de poule. Là, on est en décembre 2020. Il vient de qualifier le PSG, donc il sait qu'il est en position de force. Il va voir la presse, il dit ouais, moi je veux rejouer avec Messi. Je veux pas être méchant, mais il sait à ce moment-là que on peut rien lui refuser. Il fait passer le message qu'il a envie de faire passer. Après, tous les joueurs sont pas aussi malins que Neymar, faut quand même le dire. Et les entourages des uns et des autres savent aussi les entourer. Enfin, oui, c'est leur entourage, ils savent en théorie les entourer, mais ils savent aussi leur dire bah ça, faut que tu ailles voir un tel, ça, voilà. Je pense qu'il y avait de la part de son entourage une vraie connaissance de, comme tu dis, Hugo et David, qu'il faut aller voir à quel moment pour dire quoi, en fait. Mais bon, ça fait partie du jeu. Pour revenir un peu au programme, dans la relation entre le PSG et la presse, donc les fameux off, ou même en général, comment ça s'organise entre le club et les journalistes en général, est-ce que le PSG a une façon de faire qui est un peu particulière? Oui ou non? Moi, je sais qu'il y a un truc qui est très particulier, enfin pas très particulier, mais qui est aujourd'hui malheureusement un peu devenu la norme à Paris, c'est que le PSG, par exemple, ne force pas ses joueurs à aller en zone mixte en général. Alors bon, en Ligue des Champions, ils font un peu plus l'effort, mais la plupart du temps en championnat, tu attends pour pas grand-chose, n'est-ce pas, Hugo? Tu pourras.
Non, en fait, ils ont une obligation d'en envoyer au moins un. Donc, pour le coup, ils en envoient systématiquement un ou deux. Effectivement, il y a des soirs qui sont plus difficiles que d'autres, compte tenu du résultat, compte tenu du contexte, etc. Donc, en fonction de ça, c'est différent. On peut en avoir de 1 à 2, moi 3, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas une mémoire infaillible sur ce genre de choses. Et par rapport à ta question sur la gestion de la relation presse, il y a eu plusieurs séquences, c'est-à-dire que depuis, je l'ai su maintenant, ça va être ma 6e ou 7e saison, peu importe. Il y a eu la première séquence où, comme je le disais à l'instant, il y a eu un moment de conflit entre le média que je représentais et le PSG. Donc là, à ce moment-là, c'était des rapports qui étaient conflictuels, quasi inexistant. À un moment donné, rappelez-vous, à plusieurs reprises, ils nous avaient empêchés d'entrer au camp des loges. Donc, on était dans un moment où c'était extrêmement intense, brûlant, et on avait un rapport quasi inexistant, ou en tout cas vraiment réduit. Donc ça, c'était une première séquence. Donc ça, c'était un moment difficile parce que, au-delà du fait qu'on n'avait pas d'interview individuelle, c'est difficile d'être constamment, au-delà du fait qu'on n'accédait pas à la conférence de presse, c'est difficile d'avoir un club qui, en face de soi, ne répond pas ou fait vraiment le strict minimum pour infirmer, confirmer des informations, etc. Donc ça, c'était une séquence. Après, il y a eu un réchauffement des relations, on ne va pas revenir dessus pour différentes raisons. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'on est entré depuis un an, 18 mois dans une ère un petit peu nouvelle où j'ai le sentiment qu'ils veulent créer une relation différente, plus de confiance avec les différents médias, que ce soit le mien ou les autres. Et donc, il y a eu des pas qui ont été faits, notamment, vous avez vu dans les interviews, que ce soit nous ou les autres. Je vous donne un exemple très concret pour que nos auditeurs le comprennent. C'est, par exemple, quand le PSG se déplace à Rennes, le PSG va donner une interview à Ouest France, le journal local, même chose à Strasbourg, etc. Donc ça, c'est devenu la règle. En tout cas, quand ils peuvent le faire, ils le font. Et donc ça, c'est un pas important, me semble-t-il, vers la presse. Et donc, c'est une manière de travailler qui est un petit peu différente de ce qui s'est passé ces dernières années. Et je trouve ça, cette forme d'ouverture, mais qui n'est pas incroyable, hein. On ne va pas avoir 20 interviews par an avec le PSG, on ne va pas avoir des accès privilégiés, mais au moins il y a une relation qui est renouée et qui m'apparaît un peu plus saine qu'auparavant.
Très bien. Non, mais c'est vrai que tu as raison de me préciser parce que les gens ne se rendent pas forcément compte parce que le PSG fait des interviews de lui-même avec certains joueurs. Par exemple, tout à l'heure, ils ont publié un truc sur Milan Skriniar, mais le nombre d'interviews que les joueurs accordent à la presse écrite par an, ou à les presses même TV, parce que Canal arrivait à avoir quelques interviews, vous, Prime, vous avez eu Skriniar aussi il n'y a pas longtemps, me semble-t-il.
Oui, non, on en a, franchement, mais je rejoins complètement Hugo, ça, on va dire que ça va dans le bon sens, ça travaille plutôt bien, et on sent clairement cette volonté de plus être en opposition, de plus être un club qui a pu paraître pendant un moment d'un point de vue de la communication et médiatique, très arrogant, très, très, très au-dessus de tout le monde. Et on sent quand même une volonté d'être un petit peu plus, comme a dit Hugo, je pense que c'est le bon terme, d'être dans une sorte de win-win, quoi, de se dire, bon, on va vous donner des choses, d'être... C'est assez différent, ouais.
Question sur est-ce que c'est lié par exemple au départ de Leonardo? Parce qu'on sait que.
L'ouverture, tu veux dire?
L'ouverture. Ouais, la réouverture un peu à la presse après une période où ça a été très fermé.
Bah, je pense qu'il y a une. Il n'y a pas un avant après Leonardo pour répondre à ta question. C'est une ouverture qui est. Une réouverture, pardon, progressive qui est liée à l'arrivée, la nomination de différentes personnes au club, à la communication, à proximité aussi de Nasser Al-Khelaifi, ils ont initié ces gens-là. Soit la direction de la communication, les attachés de presse et donc des proches de Nasser Al-Khelaifi, un nouveau mouvement en se disant il faut qu'on ait aussi les médias nationaux avec nous. Il y a toujours eu cette espèce de défiance en disant vous, les Français, vous ne nous soutenez pas assez, etc. Nous, on leur a expliqué qu'on n'est pas là pour soutenir ou détruire le PSG. Il ne s'agit pas d'être un soutien. Je sais que c'est la règle parfois dans certains médias portugais, italiens, espagnols aussi. La culture française du journalisme n'est pas celle-ci. C'est quelque chose que les propriétaires qatariens ont eu beaucoup de mal à appréhender et à comprendre dans un premier temps. Aujourd'hui, voilà, je trouve qu'ils ont initié un nouveau mouvement, ce dont on parlait avec David à l'instant, et je trouve ça assez intéressant. Après, je ne suis pas en train de vous dire que le PSG est devenu du jour au lendemain le club le plus ouvert au monde. On va pas se mentir, mais le fait déjà qu'on puisse avoir quelques interviews par an, le puisse échanger de manière assez directe et en confiance avec le club, déjà c'est un pas, parce qu'il y a eu, moi ce que j'ai appelé pendant des années, cette culture de la suspicion réciproque. C'est-à-dire qu'il y avait une suspicion de on va vous donner des choses, mais finalement vous n'allez pas être avec nous, et inversement, on a eu le sentiment parfois de se faire piéger par le PSG. Donc cette culture de la suspicion réciproque, elle a tendance à se réduire on est dans une relation qui est, me semble-t-il, plus, oui, ce que je disais tout à l'heure, plus saine et plus de confiance. Voilà. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas encore exceptionnel, ce n'est pas à l'image de d'autres grands clubs européens. Je pense notamment à des clubs comme City, comme le Bayern, qui sont plus ouverts, par exemple. Il y en a d'autres, hein. Mais en l'occurrence, il y a un pas qui a été fait, il faut le dire assez clairement.
Bah, tu sais, c'est marrant que tu parles du Bayern, parce que justement, il y a 6 mois, quand ils ont fait leur grande révolution là, des dirigeants, tout ça, ils ont commencé à dire, ouais, on va réduire les accès presse, il y a trop de trucs qui sortent dans Bild, dans Kicker, tout ça. Donc, c'est marrant comme quoi il
Bah
y a des cycles.
ouais, non, parce qu'en fait le il y a eu une proximité, et voilà, notamment chez les gens espagnols, il y a une proximité entre un certain nombre de gens espagnols qui choisissaient avec la direction du Real, par exemple. C'est pas, voilà, on le sait tous, ils travaillent ensemble, etc. Nous, c'est pas notre culture journalistique. Le Bayern également à l'époque faisait ça. Moi aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à avoir une interview avec un joueur du Bayern, français ou étranger, qu'avec un joueur du PSG. On en est là aujourd'hui, c'est clair, on va pas se mentir par rapport à ça. Ou avec un joueur de Manchester City. Voilà, vous n'êtes pas sans. Voilà, vous lisez aussi, même si c'est France Football qui représente le Ballon d'Or, il y a eu des interviews récentes de Bernardo Silva, de Haaland, dans l'équipe de Gundogan, etc. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous d'avoir des joueurs de City ou du Bayern que du PSG. Voilà, même si, comme je le dis, il y a une ouverture qui est manifeste. Maintenant, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc le degré d'ouverture, il reste important chez un certain nombre de grands clubs étrangers.
Ouais, tu vois, sur là, il me dit la faute à qui? Mais en fait, c'est comme tu l'as dit, Hugo, il y avait une relation franchement malsaine, je trouve, entre le PSG et les médias français, où le PSG reprochait aux médias français de ne pas les soutenir, et les médias français d'expliquer sans que. Je jette la pierre à aucun des deux, je comprends, il y avait trop d'écart entre la position de l'un et la position de l'autre qui n'était pas conciliable, en fait.
C'est
Mais.
ça. Il y avait cette culture, et notamment que Nasser Al-Khelaïfi a initié ça, c'est-à-dire que lui ne comprenait pas, et vraiment il le disait à un certain nombre de ses proches à l'époque, je parle de ça il y a 7-8 ans, il ne comprenait pas comment un certain nombre de médias, Le Parisien, L'Équipe et RMC et d'autres, ne soutenaient pas le club. Il ne comprenait pas. C'est quelque chose qu'il n'envisageait
Il a même
pas.
d'ailleurs dit souvent publiquement, hein, d'ailleurs, il y a eu
Bien sûr,
plusieurs
bien sûr,
interventions où
bien sûr.
il le disait. Ouais.
Ouais, je me souviens de, je crois que c'était au micro de Bean une fois, qui pourtant, entre guillemets, sa chaîne, qu'il avait dit, ouais, vous êtes pas avec nous, un truc genre, c'est tes employés, hein, directement, là, tu peux leur faire un courrier si tu veux, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le PSG, globalement, est donc en train de se normaliser un peu dans sa relation avec le presse, de s'apaiser. Et dans cette relation PSG-presse, est-ce que vous ressentez que le PSG est devenu un club vraiment international? Parce que, bah, je sais, bah, tu vois, Culture PSG
Bon,
va
ça oui,
avoir.
clairement.
Excuse-moi,
Ouais,
attends,
moi
David, je précise
je
juste un
suis.
truc.
Ah, vas-y,
Quand
vas-y.
j'ai commencé le site il y a bientôt 10 ans, les news du PSG, ça faisait la France, un petit peu l'Italie, parce que c'était un peu le 21e club de Serie A, vite fait l'Espagne, parce qu'ils craignaient un peu l'arrivée. Voilà, aujourd'hui, on retrouve du PSG, mais absolument partout. Là, je sais plus ce que c'était la dernière news que j'ai vue autour du PSG sur. Bah, je crois que c'était tout à l'heure Gonçalo Ramos. 20 minutes après, c'était sur un site bolivien, quoi. Au fin fond de la Bolivie, ils étaient en train de parler du PSG. Toi, tu le ressens, David, le fait que le club est devenu vraiment très international?
Ça fait plusieurs années que je le remarque à plein d'indices et de preuves, entre guillemets. Une dernière là, qui m'a interpellé, c'était bah, juste avant la trêve avec le déplacement à Reims, où je fais donc, moi je suis dans ma position là, qui est à l'intérieur, ce qu'on appelle la position flash, c'est-à-dire les positions les interviews d'après-match. Pas celle qui a juste au coup de sifflet final, celle-là on l'appelle celle-là super flash, donc c'est très rapide, mais les interviews qu'on a juste après. Et donc j'étais à l'intérieur dans le hall du stade de Reims, et d'un seul coup je me tourne et je vois Warren Zaïre-Emery au micro de journalistes asiatiques. Et je demande justement à l'un des attachés de presse du PSG qui était présent quelle est donc cette télé, qu'est-ce qu'elle fait à Reims? Et il me dit que c'est une télévision chinoise qui était là, qui était présente sur le match. Et qui a fait une interview donc, de Warren Zaïre-Emery. Donc, bon, ça déjà, il y a quelques années, évidemment, tu voyais pas. Je me rappelle également que j'ai voulu faire un micro autrefois, juste avant la Coupe du Monde, PSG Auxerre, le dernier match au Parc avant la Coupe du Monde, et il n'y avait que des spectateurs sud-américains. On voulait faire un micro-trottoir français pour savoir s'ils craignaient que Mbappé se blesse avant ce match, enfin, si les internationaux français pouvaient se blesser, s'il y avait une crainte par rapport à ça. On n'a quasiment pas pu le faire parce qu'il n'y avait que des supporters étrangers. Et puis voilà, puis de manière générale, tu le vois bien sur tous les grands matchs au parc, t'as toujours, ça tourne, mais tu vas voir au Globo, tu vas voir, comme ici, t'es là, évidemment, t'avais tout souvent des médias argentins. Donc, c'est, oui, non, c'est devenu. Puis c'est, je veux dire, ça a un peu baissé, évidemment, depuis avec le départ de Messi, mais c'est devenu clairement un club à dimension internationale, ouais.
Il y a eu vraiment un avant-après, me semble-t-il, Ibra, Neymar, Messi, quoi. C'est-à-dire que quand t'arrives à attirer des stars aussi importantes, ça a un effet d'attraction immédiat. On l'a vu sur le nombre de followers sur les réseaux sociaux du PSG, etc. Mais en tout cas, moi j'ai toujours connu ça, pour l'avoir commencé le PSG en 2017. Le climax a été au moment de Messi, où effectivement on a vu arriver des télés du monde entier. Moi, je me souviens les premières semaines avec le Messi, c'était incroyable de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que depuis qu'ils sont partis, je me souviens de la réaction, vous l'avez tous en tête, de Luis Enrique il y a 3 semaines quand il est arrivé et qu'il voyait personne ou quasiment personne à Poissy. On était une dizaine dans la salle. Enfin, moi, j'étais pas là ce jour-là, mais en tout cas, mon collègue m'a raconté. Ils étaient une petite dizaine et ça serait jamais arrivé, me semble-t-il. Avec à l'époque Messi ou Neymar, parce qu'il y en aurait été au moins 4 ou 5 de plus, parce qu'il y avait un ou deux représentants du Brésil, et un Argentin, etc. Donc voilà, oui, la dimension elle est claire. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que la direction de la communication du PSG le regrette. Il y a moins, effectivement, moins de représentants étrangers en conférence de presse d'avant-match et même sur les matchs au Parc des Princes.
Après, tu vois, quand tu vas en tribune presse, donc bon, pas toi David, t'es en bas du terrain, ou là pour le coup, vous n'êtes pas beaucoup au bord du terrain, il doit y avoir que bah
Et encore que, ouais, mais
oui.
enfin, moi, pendant le match, effectivement, je suis tout seul parce qu'il y a que le diffuseur national qui est présent. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi les ayants droit, donc ceux qui ont payé les droits de diffusion à travers le monde. Et sur les gros matchs de Ligue 1, hein, je ne parle pas de Ligue des Champions, de Ligue 1, parfois il y a 8, tu as 8 ayants droit au total. Donc, et tu n'en as que 3 Français au maximum, c'est-à-dire que tu as Prime Vidéo, Canal+, et Free. Et donc les 5 autres, c'est des étrangers. Donc ça dit quand même, tu vois, sur la Ligue 1, tu peux quand même voir 5 médias. Je parle de télévision, plus la presse écrite qui peut être amenée à intervenir en zone mixte ou en conférence de presse. Donc
Et c'est
ça
qui?
reste quand même important, quoi.
Et c'est qui comme média, par exemple, par curiosité? Parce que je sais que par exemple BT en Angleterre, donc moi je vis à Londres depuis un certain temps, donc c'est devenu TNT Sports, mais ils sont en studio à Londres, ils sont pas sur place. C'est qui les
Ouais,
médias comme
non, eux, ils
ça en
viennent
bord
plus.
de pelouse avec toi?
Alors, très souvent, il y a BeIN MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient, Moyen-Orient Afrique. Ils sont là souvent. Il y a en fait DAZN qui a des droits en Belgique. On voit quasiment tout le temps quelqu'un maintenant également. Très souvent également, tu vas avoir un média sud-américain détenteur de droits. Alors, ça peut être ESPN, enfin, tu vois, ça tourne un petit peu en fonction des pays. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est les principaux. Puis après, ponctuellement, tu vas avoir un média italien qui va être là. Parfois, ça va être un média portugais, espagnol. Tu vois, ça, après, sur le reste, ça
D'accord.
tourne un peu plus, quoi.
Il y a vraiment le
En
monde
fonction
entier.
de. Ouais, ça dépend un petit peu. Ça va. Et puis, comme je te disais, ça peut être aussi parfois des médias asiatiques, tu vois, comme là, la télé chinoise qui était là à Reims et qui faisait partie des ayants droit. Ouais.
Ouais, non, mais c'est là que ça devient fou. Et moi, je sais que, par exemple, des fois, tu vois, pour les matchs de Ligue des Champions, t'as des fois des plateaux télé avec des Hollandais, quoi. Et pas pour un match avec une
Ouais,
équipe hollandaise en face, hein. T'es genre, ah ouais, quand même,
non,
c'est pas rien. Hein. Et on nous demande, est-ce que Lee Kang-in n'a pas ramené des télés asiatiques? Bah, j'imagine que la télé chinoise. Je suis pas sûr que la télé chinoise soit totalement là pour Lee, hein, parce qu'il est sud-coréen, et c'est pas non plus le même pays, quoi. Donc, je sais
non,
pas.
pour le coup, il y a beaucoup de Japonais qui suivaient à Reims parce qu'ils suivent Ito et
Nakamura aussi.
exactement, et il y a beaucoup de comment dirais-je de médias japonais qui dépêchent des envoyés spéciaux dans les principaux clubs de là où jouent des Japonais, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et ça, pour le coup, c'est pas étonnant. Et je crois qu'il les suit d'ailleurs systématiquement. Je me souviens avoir vu une journaliste, pardon, japonaise suivre Sakai à l'époque à Marseille. Et ça, pour le coup, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de journalistes japonais. Ils suivent régulièrement leur international à l'étranger.
On me dit possiblement Reims, c'est un actionnaire chinois. C'est possible, effectivement, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi cette présence. Et
Possible, effectivement. Ah ben.
en tribune presse, au Parc des Princes, tu as aussi beaucoup de. Même pour des matchs de Ligue 1, tu as beaucoup de journalistes étrangers qui sont là. Hein. Moi, je sais que tu as. Comment il s'appelle là, l'Espagnol de Mundo Deportivo, Hugo, tu connais peut-être son nom là.
Ouais, non, non, il y a le
Dani Gil,
représentant de la
voilà.
Gazzetta. Ouais, il y a le représentant de la Gazeta, qui est Alessandro, qui est un envoyé spécial permanent à Paris.
Qui est
Il
là
y a
depuis 10 ans.
effectivement. C'est ça, exactement. Lui, il est arrivé avec. Alors, me semble-t-il, il faudrait que chez Verratti, au moment Verratti ou
Ouais.
un petit peu après, peut-être. Je ne me souviens plus exactement, il
Bah,
faudrait
tu
lui
sais,
demander.
à
Mais c'est
l'époque,
quelque
ils
chose
étaient
comme ça.
deux, le duo transalpin. Il y avait
C'est ça.
Alessandro Grandesso de la Gazzetta et
Exactement. Simone Rovera.
de Tutto
Mané, ouais.
Sport à l'époque, qui
Tout
aujourd'hui
à fait.
est plus trop chez Tutto Sport d'ailleurs, je crois. Mais oui,
Non,
il y a.
qui est devenu conseiller, qui est devenu conseiller, conseiller en communication pour un certain nombre de joueurs.
Voilà. Et outre les Italiens, on a au moins un Espagnol et on a quoi d'autre en tribune presse en ce moment?
Bah, on avait des Brésiliens jusqu'à présent. On avait trois ou quatre représentants du Brésil à l'époque de Neymar, notamment Isabella, que vous connaissez tous. Mais aujourd'hui, il y en a. Enfin, moi, me semble-t-il, j'en croise beaucoup moins. Hein. Je parle sous le contrôle de David, mais en tout cas, moi,
Ouais.
là, sur les dernières semaines, j'ai pas le sentiment d'avoir croisé beaucoup de journalistes brésiliens.
Et vous avez des journalistes coréens qui sont venus ou pas? Ou vous savez pas trop? Parce que bon, tout le monde
J'en
ne
ai
se parle
croisé.
pas. Hein.
Non, 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 j'en ai croisé. Alors, j'ai discuté avec l'un d'entre eux. Alors, malheureusement, je ne connais pas son prénom, mais j'en ai discuté avec l'un d'entre eux il y a quelques semaines. Donc, oui, il y en a, enfin, j'en ai vu passer qui s'intéressent effectivement au phénomène Lee, parce qu'il faut bien parler de ça. Notre collègue Imanol l'a écrit dans l'équipe il y a 2 jours. C'est vraiment
Ah,
un
ça a
phénomène
sorti,
assez.
ouais.
Ouais, c'est un phénomène assez incroyable là-bas. Bah, c'est quelqu'un qui est au-delà de sa réussite pardon, sportive au PSG, ou en tout cas ce qu'on a vu, ce qui est intéressant. On en parlera peut-être un jour dans le podcast, mais pour le coup, c'est un vrai phénomène et il y a des demandes du monde entier pour ce jeune homme qui est vraiment une star dans son pays. Et nous, on ne le mesure pas, mais moi, quand j'ai vu l'arrivée avant le papier d'Imanol dans l'équipe, j'avais vu l'arrivée à l'aéroport, c'est énorme. Rockstar, c'est assez incroyable, hein. C'est assez fascinant de voir ça et ça va créer beaucoup, beaucoup, au-delà de la vente des maillots dont on a beaucoup parlé, au-delà des followers, ça va créer beaucoup, beaucoup de. Ouais, pour le PSG, pour la direction du communication du PSG, c'est assez formidable dans le sens où ça va créer beaucoup de.
De
Voilà,
vocation, de
Ouais, c'est ça,
supporters,
c'est
ouais.
ça.
Non mais,
Donc non, c'est top pour
Lee,
eux.
on parle du Messi coréen, mais quand il a, enfin, je vous l'avais partagé sur Twitter la vidéo là où il arrive à l'aéroport pour la trêve internationale. Mais c'est une dinguerie. Enfin, les
Tout à
mecs
fait.
qui lui font signer tout et n'importe quoi. Il y a quand même un type qui a acheté le maillot de Donnarumma, qui l'a floqué Lee Kang-in et qui est venu faire signer son maillot de gardien. Je suis mais qu'est-ce que t'as fait, mon ami? Ils vont t'en refaire un de maillot, t'inquiète pas. Enfin, vraiment, c'est, ouais, c'est un phénomène médiatique, hein.
Après sur la dimension internationale, pour revenir sur ta question, Philo, faudrait poser la question au chargé de communication du PSG, mais je pense vraiment qu'ils ont souffert du départ de Neymar et de Messi, forcément, de ce point de vue-là, en termes de demande d'interview, en termes de présence médiatique au Parc des Princes et aussi sur la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a un avant-après. Le PSG ne peut pas avoir perdu Neymar et Messi sans avoir des conséquences profondes de ce point de vue-là.
Eh ben,
Ouais, mais d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de rebondir là-dessus parce que je trouve que parce qu'on a parlé là du changement de positionnement médiatique en termes de communication du club, je trouve également que le fait d'avoir perdu ces deux monstres médiatiques, pour le coup, qui étaient tous les deux plus gros que le PSG en termes de followers et d'impact médiatique, je trouve que ça a eu des conséquences aussi sur leur manière de gérer les joueurs. C'est-à-dire que je pense même, je l'ai vu, c'était quand même très compliqué de gérer ces deux joueurs-là, c'est-à-dire que les faire passer en zone mixte. Bon, bah, Messi, on l'a pas vu en 2 ans en zone mixte, on l'a pas vu non plus en conf en dehors de son intronisation. Neymar, il est un petit peu plus venu, mais c'était quand même compliqué. Et je trouve que ça a aussi permis au Paris Saint-Germain de reprendre un petit peu la main, en tout cas d'essayer de reprendre la main vis-à-vis des joueurs pour leur dire, bon, maintenant, c'est la communication du club, c'est nous. Enfin, c'est le club qui la gère. Bon, je ne dis pas qu'ils ont complètement réussi, qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent avec les joueurs, etc. Hein. Mais je
Et puis,
pense que.
tu as tout à fait raison, David. Et puis après, il y a une notion aussi d'obligation. À un moment donné, ils sont obligés, pour faire parler du PSG, de faire parler davantage leurs joueurs. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient Messi, il y avait Neymar. Ils avaient des reprises dans le monde entier tous les jours, sans même qu'ils ouvrent la bouche. Et quand ils ouvraient la bouche, c'était incroyable. Donc aujourd'hui, il y a ce que tu disais, mais il y a aussi une forme d'obligation. Pour que le PSG fasse parler de lui, il faut qu'un certain nombre de joueurs prennent la parole.
Ouais,
Les
ça.
Français, bien entendu. On a parlé de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Colomouani, qu'on a a vu régulièrement ces dernières semaines, ou en tout cas dans différents médias en France, mais aussi les étrangers. Ils sont quelque part, ils ont, voilà, ils ont désormais dans l'obligation de faire parler, enfin, entre, l'obligation entre guillemets, hein, d'exposer davantage le joueur pour que les joueurs, pour que le PSG reste un sujet de conversation. Et puis après, il y a un risque qui est aussi moindre, c'est que les interviews, si on a ces dernières années, tournaient aussi beaucoup autour des relations entre Neymar, Messi et Mbappé. Et ils savaient que c'était des sujets brûlants sur lesquels vous pouvez avoir des polémiques, etc. Donc ça n'invitait pas
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et comme la communication du PSG a livré des interviews aux médias français, quoi, a donné des interviews aux médias français. Je pense qu'il y avait quelque chose de ça aussi.
Ouais, oui, et puis même, je me mets à la place de communication, tu vas pas envoyer un joueur au feu et créer un problème. Si t'es pas bête, tu fais pas ça, quoi. C'est juste de la logique.
Oui, parce que il y avait vraiment, en plus, il y avait beaucoup de tension entre les trois, donc on était en cette période-là, donc il y avait à avoir la moitié de l'interview qui allait être phagocytée par ça, donc d'un point de vue stratégique, je le comprends aussi. Hein. Je le regrette parfois, parce que ça nous a donné des années où on avait absolument zéro interview, et quand il y en avait une, elle était inintéressante au possible. Mais en tout cas, la stratégie globale, je la comprends.
Tiens, question pour vous deux. Est-ce que les médias français ou étrangers ne regrettent pas Messi et Neymar? Bon, je me permets de répondre à la place de David. En bord terrain, Messi, pour les interviews, tu ne peux pas le regretter. Tu n'as jamais lâché un mot.
Il n'est pas vu. On ne l'a pas vu.
Et Neymar, tu l'as fait une fois ou deux, il me semble.
J'ai fait deux, trois fois. Ouais. J'ai fait notamment, ça me fait toujours sourire quand j'y repense. Je l'ai fait juste à son retour de la Coupe du Monde. Je n'aurais pu vous dire quel match, mais je l'ai fait.
Strasbourg.
Et possible, je ne sais plus si c'est celui le premier ou celui d'après, mais je lui pose la question. Je lui pose une première question sur le match. Et la deuxième question, on avait repéré qu'il semblait un petit peu quand même pas au mieux. Il y avait toujours ces histoires de cheville. Et donc, la deuxième question que je lui pose, c'est et sinon, physiquement, si ça a l'air d'être difficile, comment va ta cheville? Et là, il me regarde, mais d'un air vraiment, j'allais dire méprisant, mais surtout hyper, ultra agacé par la question. Et il fait, ça va très bien, merci. Et il se bat. Et sauf que le match d'après, il se la pète, quoi. Donc, c'était la dernière fois il nous avait parlé. Mais au-delà de ça, parce que de toute façon, sur cet exercice-là, tu n'as que deux questions, donc ce n'est pas là où tu vas faire grand-chose. C'est sûr que pour en revenir à ta question, bon, c'est. Oui, il peut. Enfin, comme j'ai dit, c'est un petit peu à double tranchant, parce que finalement, Messi, on le regrette en tant que joueur, en tant qu'objet médiatique, en tant qu'objet sportif et tout ce que tu veux, mais pour le coup, il n'a rien donné. Et moi, la chose qu'en tant que même amoureux de foot, je reproche à Messi lors de son passage en France, c'est d'avoir aussi peu donné aux fans, aux médias. Je veux dire, il a quand même été reçu comme un roi. Alors, il se trouve que c'est le roi, c'est le roi absolu du football. Il a été reçu en tant que tel, c'était normal, mais en échange, il n'a rien donné. Il a pas beaucoup donné sur le terrain, mais ça, on peut en discuter. Et puis, il y a des éléments qui font que. Mais je trouve qu'il a pas assez donné. Il a donné à France Foot quand il fallait, parce que c'est des obligations vis-à-vis du Ballon d'Or. Et là aussi, il était bien content de pouvoir le faire. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est pour moi, c'était pas
il a fait
faire,
le minimum, hein. Non, c'est ça. Et toi, Hugo, tu les regrettes un peu, Messi ou Neymar, t'en as...
C'est-à-dire que je les regrette d'un point de vue personnel ou professionnel? D'un point de vue professionnel. Non, mais d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'on savait que 50%, peut-être même plus, de nos articles allaient tourner autour de ces deux-là. Le restant étant Mbappé, donc ça nous donnait beaucoup de travail de ce point de vue-là. Après, on commençait vraiment à tourner en rond. Si je raisonne uniquement d'un point de vue très personnel, c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont manquer? Non, parce qu'à un moment donné, les angles qu'on pouvait traiter sur Messi et Neymar, on n'en avait plus beaucoup. Et à un moment donné, c'est pas intellectuellement, c'est pas intéressant de revenir toujours sur les mêmes sujets. Mais on savait que ici. Il disait quelque chose, s'il y avait une attitude, s'il y avait un clash, c'était voilà, ça pouvait prendre des proportions considérables. De ce point de vue-là, c'était intéressant journalistiquement d'étudier les phénomènes, les interactions entre les uns, les autres, de comprendre un petit peu les schémas de pensée, les relations. Donc, de ce point de vue-là, c'était oui, c'était enthousiasmant, c'était intéressant. Puis après, en tant qu'amoureux de football, forcément, quand on voit Messi et Neymar, moi, je faisais partie de ceux qui prenaient voilà, énormément de plaisir à les regarder. Ça reste des immenses joueurs, malgré les difficultés récentes l'année dernière et celle d'avant pour Neymar. Voilà, donc d'un point de vue professionnel, je trouve que je ne pouvais pas de trouver de nouveaux angles intéressants, pertinents tout le temps sur les deux, parce que si on, voilà, au bout de 50, 60, 70 articles, 100 articles, je ne peux pas trouver des angles toujours hyper originaux sur ces mecs-là. Après, voilà, il crée une forme d'attente tout le temps. Il y avait toujours quelque chose à dire sur Messi, sur Neymar, à attendre une réaction. Donc, de ce point de vue-là, ouais, il y avait une forme d'intensité avant les matchs, après les matchs. Aujourd'hui, on parlait de normalisation, en tout cas de processus de normalisation de relations de la presse entre le PSG et les médias étrangers et français. Je trouve que le paysage aussi s'est normalisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, en conférence de presse, en zone mixte, il y a moins d'effervescence parce qu'on sait qu'il n'y aura pas jamais une star, à moins que Mbappé se décide à venir une fois tous les 4-5 mois, mais il n'y aura jamais un moment, ou en tout cas à la marge, qui créera l'événement aujourd'hui. C'est clair. Voilà,
Oui, c'est ça.
ça participe d'une normalisation. L'arrivée de Français aussi, il faut être très, très clair par rapport à ça, participe de cette normalisation. Voilà, voilà, il n'y a bien plus cette effervescence, ces bousculades. Où un mot de Neymar crée voilà, des polémiques pendant des semaines, ou un mot d'un coéquipier sur Messi ou de Neymar crée des débats en radio, en télévision, en presse écrite pendant des semaines. Donc il n'y a plus cette effervescence-là, et je pense que ça participe effectivement d'une forme de normalisation. Après, de là à me dire qu'il me manque, ouais,
Non mais tu
moi
vois,
j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour, quoi.
sportivement, pour moi on avait complètement fait le tour, comme tu le dis, c'était tout le temps les mêmes articles. Oh, il va essayer machin à gauche, machin à droite, oh il a réessayé dans l'axe, tu vois, au bout d'un
C'est
moment,
ça.
d'un point de vue tactique, sportif, t'avais tout vu. Après, en tant que personne qui quelque part doit créer du contenu, tu les as, c'est la facilité la plus totale.
Ah bah
Eux,
oui,
ils te
c'est
créent de
sûr
tout.
que c'est ça.
Ils te créent des articles, des thèmes, des polémiques, ils te créent
Non mais
tout.
je me souviens, tu vois, par exemple à Monaco, je sais pas si vous avez le souvenir de ça l'an dernier, où dans le vestiaire, il y a cette altercation, ou en tout cas ce dialogue un
J'y
peu
étais, ouais.
chaud entre Campos et les Brésiliens. Et voilà, dès lors qu'il y a une star dans ce dialogue, bah ça prend des proportions. Effectivement, si Campos s'en était pris, entre guillemets, j'avais tout le respect que j'ai pour eux, à Ugarte et Vitinha, bon, bah ça n'aurait pas nécessairement pris la même proportion. Là, force est de constater que ils s'en prenaient, ou en tout cas, il y avait un dialogue qui était intense, pour ne pas dire plus, en l'occurrence. Avec avec des stars de son vestiaire. Donc voilà, donc ça crée forcément beaucoup plus de voilà une dimension plus importante, et ça prenait des proportions beaucoup plus conséquentes. Donc oui, de ce point de vue-là, c'était intéressant. Aujourd'hui, on est dépendant de l'actualité de ce bon Kylian Mbappé.
Totalement. Mais on me dit, est-ce que vous êtes conscient que les débats polémiques buzz fatiguent tout le monde? Malheureusement, ça fatigue pas tout le monde. Ça passionne les gens. Vous n'avez pas
Ah
idée à quel
ouais.
point. Ça paraît comme ça stupide et tout, mais ce genre de polémiques complètement inutiles dans le fond et qui prennent une place pas possible dans la forme passionnent réellement les gens. Voilà, c'est terrible, hein.
C'est intéressant. Ce commentaire est intéressant parce que je me suis, il y a quelques années, j'avais rencontré, on avait fait une rencontre avec des lecteurs de l'équipe, supporters du PSG, et beaucoup m'avaient dit ça. Et je m'étais renseigné ensuite sur les papiers numériques. et où on a les décomptes, on a les gens qui achètent l'article ou qui le lisent en l'occurrence sur telle ou telle thématique. Et je m'étais dit, voilà, alors essaye de les croire, essaye de considérer que les articles magazines ou les articles qui ne sont pas polémiques ou des portraits ou des papiers analyses, essaye de voir s'ils sont lus autant que les papiers sur Neymar, sur Messi, les papiers polémiques. Okay. Et donc j'avais fait l'étude pendant quelques semaines, j'avais dit à la personne chargée des data ou des données à l'équipe, donne-moi les taux de lecture de tel ou tel papier. Et je me suis rendu compte, et c'est pour répondre à la personne qui est sur le chat, que le taux de lecture était dans des proportions mais considérables, beaucoup plus important sur n'importe quel papier polémique ou en tout cas brûlant sur Messi, Neymar ou autre, que sur un papier d'analyse qui était pourtant pertinent et ou sur un papier magazine. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que des papiers polémiques, pas du tout. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut avoir des papiers sur de foot, il faut avoir des papiers de magazine, il faut avoir papier. Voilà, on parlait tout à l'heure du papier d'Imanol sur la folie Lee en Corée du Sud. Voilà, c'est la diversité qui est importante. Mais cet argument-là, j'ai du mal à l'entendre parce que dans les faits. Ça se traduit pas par un taux de lecture important, les magazines ouais. et les papiers foot. Voilà, il faut être très.
C'est ça, c'est. Par à ça.
Tu vois, un mois.
Ouais, et
un
je rebondis juste là-dessus. C'est le thème qu'on a quand on te dit vous parlez que de Paris, que de Lyon ou de Marseille. Mais de fait, dans les émissions télé ou en radio, je pense que c'est RTL, quand on fait d'autres thèmes, bah, ton audience, elle chute. Donc, et c'est la même logique que pour ces papiers-là. On peut essayer de faire d'autres choses, mais à un moment, on se met en face des attentes du public. Hein. C'est le public qui guide en partie ta ligne éditoriale. Donc oui, ces papiers-là, ces papiers buzz, ou pas seulement buzz, parce que c'est vrai que ça tient aussi à la personnalité. Tu fais un papier sur Mbappé, il va être lu, quoi qu'il arrive. Ça peut être quel que soit le sujet.
Ouais, et bien, tu vois, je vais vous citer un exemple très bête. L'année dernière, sur le même jour, je crois, on avait sorti un article sur... je sais plus si c'était un jeune ou un truc vraiment très orienté tactique, vraiment un thème qu'on voit pas souvent. Personne l'a lu. Le même jour, on avait sorti un article sur les malheurs de Mauro Icardi en Argentine avec son divorce et tout. Mmh. Ça a été l'article le plus lu sur les 3 mois qui ont suivi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je comprends que ça saoule certains, que oui, la polémique, tout ça. Mais tu fais aussi par rapport à tes lecteurs. Alors, comme tu dis, Hugo, c'est important d'avoir un équilibre, de ne pas proposer que des articles de polémique, que des articles, excuse-moi, à bas du front, tu vois ce que je veux dire. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Le genre d'article que tu as envie de lire à 18h quand tu sors du boulot, voilà, clairement. Tu n'as pas forcément la tête à t'ingurgiter une analyse tactique de Dan Perez, même s'il fait des schémas. Hein. Mais oui, c'est triste ce que je dis, mais c'est la réalité. Quelque part, tu dois avoir un équilibre. Parce que y a des moments pour tout. Le matin, tu as des gens qui ont envie de lire des fois des gros articles et le même article que tu le publies le soir, il va pas marcher. Tu as aussi un timing par rapport au rythme de vie des gens, par rapport à ce qu'ils ont envie de lire, à quelle heure, tout ça. Il faut, en théorie, tu dois avoir de la place pour tout. Mais tu ne peux pas aujourd'hui en
ouais,
tant que média.
Ouais, puis il en faut pour tout le monde aussi, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que tu vas avoir, je veux dire, t'as aujourd'hui, en matière de support ou de médias footballistiques, t'as quand même t'as ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, t'as des sites ultra niches qui vont te parler du football des pays d'Europe de l'Est, d'autres qui vont te parler que de l'Amérique du Sud, d'autres qui vont être très data, d'autres qui vont être football romantique. Donc, je veux dire, quand tu veux aujourd'hui piocher ce qui t'intéresse, t'as ce qu'il faut. Donc, je veux dire, c'est un peu aussi des. Toi, moi, j'ai des potes qui j'ai beaucoup participé à l'équipe du soir. Et qui viennent me voir des fois, qui me disent « L'équipe du soir, je supporte pas, machin et tout. » Mais je dis « Mais regarde pas si tu supportes pas. » Mais tu vois, je veux dire, c'est un petit peu la même logique. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas quand il y a trop de buzz, etc., bah, va sur un média où il y a moins de buzz, quoi, simplement.
Oui, tu as une offre aujourd'hui qui est tellement large que tu peux global. Moi, je sais, par exemple, on me parle régulièrement « Ouais, l'équipe du soir, RMC, l'after, tout ça. » J'ai pas écouté ça depuis 10 ans. Et tu vois, je ne savais même pas que tu étais passé sur l'équipe du soir, David. Parce que déjà, je ne vis pas en France à aide, mais ça ne m'intéresse pas parce que je sais. Enfin, ce que j'ai envie de lire sur le foot, c'est des trucs très spécifiques, par exemple.
Ah ouais,
enfin, genre le site de tactique allemand, par exemple, des fois je le lis, mais je comprends que ça n'intéresse pas tout le monde, quoi. Après.
Vraiment, c'est je pense que vraiment que c'est une question d'équilibre, vraiment. Et on essaye de faire ça. Alors peut-être qu'on réussit pas. Et j'essaie de, en tout cas à mon échelle, de participer à ça, une forme d'équilibre où on peut à la fois trouver, bah, pour le dans le média dans lequel je travaille, je parle pour ce que je fais au quotidien, un article, un portrait de tel ou tel joueur que, voilà, par exemple, ils ont un souci dans le domaine aérien qui est évident depuis des semaines, des mois. On avait fait un sujet, bah, c'était avant Brest et avant Newcastle pour le coup. Donc bon, ça s'est confirmé ensuite sur le thème. Bah, dans le domaine aérien, ils sont vraiment en difficulté. Que un papier d'analyse sur le 4-2-4 de Newcastle, que effectivement des papiers sur Mbappé, l'avenir, etc. Voilà, je trouve que notre rôle aussi à nous, peut-être que aujourd'hui avec les départs de Messi et Neymar, ça va nous faciliter la tâche. On va peut-être parler davantage de football qu'à l'époque. Et je comprends la personne du chat la comprend, mais que voilà, on essaye nous d'être le plus équilibré possible et de donner un peu de entre guillemets à manger à tout le monde.
Ouais.
Après, j'insiste sur ce que tu viens de dire, à mon avis, Hugo. Je pense que moi, je le ressens beaucoup. C'est-à-dire quand même, tu sens que parce que le projet Paris Saint-Germain est quand même mieux construit, un petit peu plus cohérent et que c'est plus l'alignement des stars, etc. J'ai l'impression qu'effectivement, ça donne une matière plus saine à travailler pour nous journalistes. C'est-à-dire qu'on n'est plus nous-mêmes happés par la lumière Messi, par le buzz Neymar. Et on peut aussi aller sur des sujets un petit peu plus de fond. Et il n'y a plus c'était presque une obligation, tu vas te dire.
Bien sûr, complètement.
Quand Neymar, il faisait la bringue à Bougival, bon, bah, les médias en parlaient, quoi qu'il arrive. Tu vois, je veux dire, et y a moins ça, et je trouve que le projet fait... Il y a plus d'angles sportifs, il y a moins de buzz, tout simplement.
Ouais, complètement. Après, il y avait des rendez-vous qui étaient annuels. On en rigolait à l'époque avec Philo, mais les anniversaires de Neymar au mois de février, c'était devenu voilà, c'est des rendez-vous où on savait qu'avant, après, on allait parler de ça, que forcément, la Ligue des Champions arrivant, eh ben, ça allait avoir des conséquences d'un point de vue sportif. Voilà, donc tous ces sujets-là ont été écartés aujourd'hui et effectivement, on parle plus de sportifs. Après, ce que je regrette parfois, et on en discute souvent avec Philo après les conférences de presse, c'est que parfois il donne pas assez de ce point de vue là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Ouais, là, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement brillant, c'est vrai, mais qui malheureusement trop ponctuellement, enfin trop peu à mon goût, parle de football et donne des éléments de compréhension de ses choix. Et ça, voilà, c'est pas le sujet du jour, mais je le regrette parce que il aurait tellement à donner, il est tellement passionnant pour les gens qui le connaissent, etc., que par mépris pour une corporation, il se prive d'explications et je trouve ça vraiment dommage. Et on parlait de communication du PSG, de normalisation, je trouve ça vraiment dommage que quelqu'un d'aussi riche intellectuellement ne fasse pas cet effort d'explication, ou en tout cas à la marge, ou en tout cas trop peu souvent à mon goût et au goût des gens qui suivent le PSG. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, ça participerait à construire des sujets purement sportifs dans nos émissions, dans nos journaux, etc.
Et à élever le débat. Parce que.
Ouais. Moi, j'aime. Vas-y, vas-y.
Non, mais tu vois, c'est ça. C'est là où des fois on me dit machin, l'équipe du soir ou Intel va influencer tout ça, mais je trouve que l'entraîneur, quand il te donne des billes tactiques, quand il te parle de certains joueurs sur des aspects du jeu qu'il aime bien, par exemple, un qui a été injustement critiqué, je trouve, sur ce point-là, c'est Unai Emery ou Tourelle, qui donnaient des justifications tactiques vraiment très précises parfois.
Passionnante.
À Thomas Tuchel,
les deux à des échelles un petit peu différentes ont été passionnants, vraiment passionnants. Je me rappelle vraiment de conférences de presse de Thomas Tuchel avec lequel moi j'ai pu accrocher sur le plan professionnel et humain, où il te détaillait vraiment de manière extrêmement précise tel ou tel placement et ça nourrissait des papiers formidables et il faisait l'effort, ce qu'on n'a absolument pas fait ensuite Pochettino, et là encore je vais pas revenir à ce que je disais, mais Luis Enrique pourrait
j'ai trouvé qu'il y a une petite peut-être inflexion là-dessus. Parce que bon, pour le coup, moi, c'est des sujets que j'évoque régulièrement avec les gens de la com du PSG, parce que je trouve que c'est frustrant. Alors, du coup, je parle un petit peu pour tout le monde. Je parle pour Prime Video parce que c'est là où ils interviennent chez nous, mais on leur fait ces retours-là nous, pour leur dire on aimerait bien quand même avoir un petit peu plus de fond et que ça ne répond pas toujours à côté, etc. Et je sais également que c'est pas facile pour les gens de la COP, puisque si, enfin, Luis Enrique, il n'est pas comme ça, il n'est pas arrivé comme ça, enfin, il s'est pas transformé plus exactement au Paris Saint-Germain. Il y a eu plein de papiers qui l'ont montré, compris dans l'équipe, pour analyser un petit peu son comportement médiatique depuis des années. Et j'ai trouvé juste que sur les dernières semaines, il a un petit peu plus donné. Alors, est-ce que c'était conjoncturel, ponctuel, parce que ça l'arrangeait à ce moment-là de donner plus? Ça va être à suivre. Il y a eu évidemment aussi le cas Mbappé où là il a parlé de choses un peu précises, même s'il n'a pas tout voulu dire en expliquant qu'il y avait des choses qu'il dirait en tête à tête avec Mbappé. Mais j'ai trouvé que notamment, il y avait une conférence de presse il y a 2 3 semaines, juste avant la trêve, où il avait enfin livré un petit peu des éléments un petit peu plus clairs, on va dire. Il n'avait pas complètement répondu à côté. Et en tout
Ouais,
cas,
il y a une
nous, c'est des.
dernière conf, effectivement. Excuse-moi, David, je coupe. Il y a une dernière conf, effectivement. Je le trouve beaucoup plus. Je me souviens plus quel match. Et on s'est fait la réflexion aussi parmi les journalistes où il avait pu donner d'éléments d'explication. Et c'est vraiment dommage qu'il est passionnant. C'est quelqu'un de. Quand il commence à expliquer des éléments de jeu, des éléments de sa méthode, etc., de ses objectifs, il est passionnant. Et je regrette vraiment. Et pour revenir au sujet du soir, qui est la communication, je regrette vraiment, même si ça passe du tout dans sa méthodologie de travail, qu'il puisse pas donner une à deux interviews par an en individuel où il expliquerait vraiment sa méthodologie, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être pour le lecteur, l'auditeur ou le
Ah oui, c'est
téléspectateur
sûr.
absolument passionnant.
D'ailleurs, je me souviens que, puisque juste pour parler d'Unai Emery, Unai Emery avait fait l'effort de parler en français pendant tout son passage parisien, et ça avait limité, je trouve, parfois également ses explications, parce que s'il faisait des efforts et qu'il prenait des cours, c'était loin d'être parfait. Et je me souviens que juste après qu'il soit parti, il avait donné, je crois que c'était à El País, il avait donné une interview donc en espagnol, du coup, qui avait été mais super
Exceptionnel.
intéressante, sur tous
Exceptionnel.
les points de vue, sur
Tout à
son
fait.
fonctionnement, sur la tactique, etc. Et voilà, donc là, et tout ça pour dire que je te rejoins complètement là-dessus, que de temps en temps, que les coachs comme ça, comme tu le dis, quand même, globalement, sont des gens qui faut se rendre compte de ce que c'est aujourd'hui d'être coach. Hein. Ils pensent foot H24, ils mangent foot 365 jours par an, tous les détails sont ajustés au millimètre près et tout. Donc, qu'ils viennent t'expliquer un petit peu ça, comme tu dis, ils vont pas faire ça toutes les semaines, mais s'ils pouvaient le faire de temps en temps, ça serait super intéressant. Et je pense qu'en plus, pour le cas du Paris Saint-Germain, ça serait aussi, ça pourrait être bien, quoi, ça rentrerait dans cette logique-là, en tout cas, de se dire, tiens, on donne un petit peu aussi aux médias et donc indirectement aux fans et aux fans de foot, en tout cas.
Vu que David, tu peux pas rester en combien de temps, on va juste passer rapido sur le dernier thème. Mais toi, t'es un peu moins concerné. Au pire, c'est le PSG au quotidien. Donc là, on a parlé beaucoup de conférences de presse, relations, tout ça. Est-ce que, par rapport notamment, vous avez une relation un peu plus directe avec ce qui se fait de plus proche des joueurs? Parce qu'on va être honnête, hein, les joueurs, à part en zone mixte 2 minutes, ou toi, David, en interview, pareil, 2 questions, ils ne côtoient pas les journalistes, les joueurs. Faut avoir bien conscience de ça.
Toi plus, ouais,
Voilà.
c'était le cas avant, et
Ouais, non,
c'était une
l'époque
belle lurette.
Jacques Vendroux sur les genoux de Platini, c'est terminé, ça, oublié. Enfin, peut-être toujours le cas, mais on les laisse entre eux. Aujourd'hui, Hugo Delon n'est pas sur les genoux de Kylian Mbappé, je vous le dis.
C'est très probablement le cas pour Jacques Vendroux, effectivement.
Voilà. Mais est-ce que vous sentez une pression, une atmosphère différente au PSG par rapport aux autres clubs, notamment?
Dans le
Hugo?
rapport aux joueurs, tu veux dire?
Non, non, même en général, dans le rapport que. Enfin, toi, par exemple, le PSG, l'équipe, vous faites pratiquement un article par jour sur le PSG. Donc, vous êtes en contact un peu quotidien. Est-ce que tu sens une pression peut-être du club ou une
Ah, mais c'est
pression de
incomparable.
l'extérieur sur le club? Vous la sentez,
Bah, non,
ça?
c'est incomparable. C'est-à-dire que sur les, mais c'est pas spécifique à Paris, quand mes collègues écrivent sur Marseille, l'équipe, l'écrit, et pour le coup, ça c'est la force de l'écrit, il reste. C'est-à-dire que on est lu le matin ou à minuit et demi quand l'équipe sort, et on a des messages immédiatement. Et ça, c'est clair et c'est normal en fait. Je trouve ça, moi, voilà, je fais ce métier aussi pour être lu et qu'on me fasse des reproches ou qu'on me félicite, etc. Enfin, donc il y a une pression qui est inhérente à mon métier et il faut l'accepter. Et forcément, quand on écrit sur des sujets parisien ou sur l'équipe de France comme moi ou mes collègues, et bah, y a une pression qui est importante. Donc après, il faut l'assumer, il faut l'intégrer et puis l'accepter. Mais c'est ce qu'on cherche aussi. C'est d'être lu, entendu ou vu par deux personnes, c'est dommage. Donc on l'a intégré, y a une pression qui est importante. Après, mes collègues qui s'occupent de Montpellier, Toulouse, ils ont aussi une pression. Hein. Vous savez, quand on met, je ne veux pas parler à leur place, mais quand on met 3 ou 4, par exemple, le soir, à un joueur de Toulouse, et en l'occurrence, ils le lisent encore, et tout de suite, vous avez des appels. Donc, les joueurs du PSG, pour les notes, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc, de ce point de vue-là, sur les notes, franchement, on est très... Alors là, pour le coup, on est très tranquille. Je pouvais mettre 0 à Neymar. J'aurais jamais eu un appel de ces conseillers. En revanche, oui, quand on écrit des papiers sur tel ou tel élément du vestiaire ou des papiers d'analyse ou sur l'avenir, bah oui, on a des appels, on doit y répondre. C'est notre boulot et en l'occurrence, c'est quelque chose d'intéressant. Mais pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'il y a une forme de pression? Oui, il y a une forme de pression qu'on se met déjà pour être le plus précis possible et plus proche de la vérité avec les sources dont on dispose. Ce n'est pas toujours facile et il y a une marge d'erreur qui est importante. Je pense qu'on en est tous conscients. On essaie de toujours faire au plus proche de la vérité et on essaie d'être, je pense, tous collectivement honnêtes intellectuellement. Après, oui, il y a des pressions et c'est normal et c'est à nous de faire la part des choses.
Et mais pas plus finalement que dans d'autres grands clubs, quoi.
Bah, il faudrait poser la question à des gens qui suivent le Bayern Munich et le Real Madrid et Manchester City, mais la différence peut-être avec les grands clubs comme Real, c'est qu'il y a des journaux qui sont des journaux amis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Philo. C'est-à-dire que le rapport avec le club, il est différent. Donc quand le rapport avec le club est différent, je pense aussi à des journaux portugais qui sont proches d'un certain nombre de clubs locaux, voilà, il y a une forme de proximité qui fait qu'on est moins critique. Donc, quand on est moins critique, c'est sûr qu'à minuit et demi ou à 7h du matin, on a moins de coups de fil. Hein. ils sont contents, ils envoient un message, merci pour tout, etc. Là, on a... Et moi, je défends cette vision-là du journalisme, une vision honnête intellectuellement, mais une vision critique par rapport aux faits et aux actions du PSG, ce qui a créé, ce qu'on disait tout à l'heure, une forme de défiance à l'époque avec le PSG de QSI qui ne comprenait pas pourquoi on ne les soutenait pas. Moi, je défends une vision journalistique où on a une vision critique et voilà, c'est ça la différence par rapport à d'autres médias et d'autres pays qui ont une culture journalistique différente et où ils auront forcément moins de pression parce qu'ils vont écrire, entre guillemets, sans vouloir faire injure à ces gens-là, ce que la direction du club le veut.
Mais par exemple, avec l'équipe de France, qui est un cas un peu particulier, est-ce que l'équipe a aussi cette froideur peut-être au sujet? Parce que l'équipe de France, là en France, tu vois, ça fait... Je comprends que par exemple l'équipe soit neutre par rapport au PSG, parce que t'es le journal sportif de toute la France. Mais l'équipe de France, c'est l'équipe de toute
même
la
chose,
France.
Même chose, on a exactement le même positionnement. Pour le coup, je parle en connaissance de cause, ça fait 7 ans que je les suis également. À titre personnel et pour parler pour mes collègues, et je ne pense pas les trahir leur pensée, on a exactement le même positionnement. Après, ça ne nous empêche pas, sur une finale de Coupe du Monde, et je vais être très honnête avec vous, de bondir sur le but de Kylian Mbappé sur l'égalisation. C'est pas un comportement anti-journalistique parce qu'on est des passionnés de foot et que tu es mené 2-0 et que tu n'y crois pas et qu'à un moment donné, et que tu as les journalistes argentins qui sont fous en tribune et qui te regardent et qui te défient à 2-0. Et quand le bon Marcus Thuram et le bon Kylian Mbappé égalisent à la fin, sur une remise de Thuram, tu as tendance à bondir de ta chaise et dire c'est bien aussi. Quoi. Mais une fois que je t'ai dit ça, on essaye toujours collectivement d'avoir une forme d'honnêteté intellectuelle et donc avoir une vision critique sur le sujet qu'on traite. On ne dit pas que du bien de Didier Deschamps toute la journée. Voilà, j'ai fait un papier sur le staff de Didier Deschamps il y a deux jours. Je suis pas sûr, pour ne pas dire plus, que ça lui ait beaucoup plu. Voilà, mais c'est comme ça. C'est une vision. On a des relations professionnelles entre l'équipe et le staff de l'équipe de France. Et ça ne nous empêche pas d'écrire effectivement que le fait qu'il ait décidé d'avoir un staff réduit et de ne pas introduire des spécialisations, ça pose des questions. Voilà. Mais c'est un positionnement qu'on revendique et avec lequel je suis extrêmement à l'aise.
D'accord. C'est marrant que tu parles de la presse argentine parce que bah, pour avoir regardé régulièrement depuis 10 ans les sélections où jouent de Paris, des Parisiens, il y a eu des Parisiens de Di Maria, Lavezzi, Paredes ou Chelso. Je regardais le match et après j'allais lire les commentaires de la presse argentine. Et certains matchs, je voyais Messi qui faisait pas grand-chose. J'étais là, ouais, bon, il a 6 quoi. Et j'ouvrais mon bon Clarine ou Olé et je vois 8 sur 10, 9 sur 10. Je fais, mais c'est de l'idolâtrie ou du
Non, on n'a
journalisme?
pas, ouais, on a pas ce rapport-là. Enfin, moi,
Ouais,
en tout cas,
voilà.
ma génération, peut-être que c'était le cas avant, ça, pour le coup, j'ai pas suffisamment de recul pour juger, mais ma génération, on n'a jamais été dans ce rapport-là avec les joueurs français de l'équipe de France. Jamais.
Ouais.
Sincèrement, si la personne a fait un mauvais match, qui s'appelle Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Kolo Muani, ou que ce soit le huitième latéral droit, on aura ce rapport-là. Moi, je trouve, hein, en tout cas, qui est plutôt sain.
Toi, t'as déjà mis 2 à Mbappé, si je me trompe pas, en plus.
Bien sûr, ça m'est arrivé. Et en l'occurrence, voilà, c'est sur les notes, je le répète, sur les notes, les stars et les stars françaises, etc., ils ont suffisamment de recul. Et puis, c'est pas leur monde. Ils vont pas lire l'équipe par rapport à ça. Leur entourage peut lire l'équipe, mais ils vont pas nous envoyer un message comme les joueurs de, je sais pas, de Lorient, de Montpellier ou de Clermont, par exemple, qui sont toujours à lire le journal local après les matchs ou l'équipe, parce que voilà, c'est un rapport différent à la presse et c'est un rapport différent aux journalistes, quoi.
Ouais. Dernière question parce que David doit peut-être y aller. Et je lui avais promis 22h15, il est déjà 22h20, donc voilà.
Ouais,
David, merci pour tout. On a juste une dernière question, mais si Hugo veut la faire tout
c'est
seul.
plaisir. Non, mais
Est-ce que,
avant de partir, il va y
ouais,
répondre.
est-ce que tu vous avez l'impression que le PSG vit malgré tout dans une certaine frénésie médiatique, environnementale un peu ou je... Bon, on en a un peu parlé avec Messi
Ouais,
Neymar, mais tu sens toujours quand même cette frénésie, David?
alors à l'heure actuelle, moi j'avais halluciné, j'avais couvert le trophée des champions à Tel Aviv, le PSG Nantes, là, il y a, enfin, le dernier trophée des champions en date. Là, la frénésie, elle était dingue. Je veux dire, c'était des rockstars, quoi. Et ils revenaient en plus de leur tournée au Japon. On avait vu les images, c'était la folie. Je les avais fait aussi plusieurs fois en déplacement en Ligue des Champions et c'était la frénésie. Donc la frénésie sur ce qui entoure le club, on s'en rend pas compte, mais c'est devenu, oui, c'est, je dis les Rolling Stones ou les Beatles, mais c'est plus les rockstars de l'époque, mais c'est des rockstars. Donc ça, je trouve que de l'extérieur, ça reste et ça conditionne un petit peu pas mal de choses. C'est-à-dire que quand on dit oui, ils sont fermés, etc. Mais oui, mais ou tu vois, il y a eu la polémique sur le est-ce qu'ils devraient voyager en train. J'attends de voir, là, l'équipe de France va peut-être voyager en train pour son prochain déplacement, c'est ce qui est dans les tuyaux en tout cas. Le PSG, c'est quand même, enfin, aujourd'hui, il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Donc la frénésie, elle est là. Maintenant, moi, ce qui m'étonne également, c'est que je trouve que quand je. Alors, je côtoie peu les joueurs, mais je les vois quand même un petit peu à d'autres moments que notamment que d'autres journalistes. Je trouve que ça reste des joueurs de foot, quoi, finalement. Et dans tout ce qu'ils, dans leur quotidien, en tout cas, une fois qu'ils arrivent au stade, je vais pas parler de leur quotidien, je suis pas tout le temps avec eux, mais je passe plusieurs heures avec eux au stade. Ça reste des joueurs lambda. Enfin, je veux dire, ils parlent avec les camarades d'en face, ils vont signer des autographes, ils font des selfies. Enfin, faut pas croire non plus qu'ils sont pas du tout dans une bulle les soirs de match. Ils jouent plutôt le jeu. Ils arrivent. Moi, je les vois à des moments où il n'y a pas de caméra, donc ils font pas ça pour les caméras. Ils vont notamment au Parc des Princes quand ils arrivent. Il y a souvent soit des personnes handicapées ou des jeunes qui sont là défavorisés. Ils s'arrêtent, ils leur parlent, etc. Donc il y a beaucoup de frénésie autour du club, mais à l'intérieur, j'ai l'impression qu'eux, parfois, sont un petit peu, et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a rapporté, qu'eux, ils sont un petit peu dans leur bulle. Tout à l'heure, Hugo disait, bon, bah, Neymar lisait pas l'équipe, ou Garté non plus. Donc, tout ce qui peut, tout l'emballement médiatique, j'ai l'impression que parfois,
Ça leur
ça
passe
leur passe
au-dessus.
complètement au-dessus. Ouais.
Et
Donc voilà, donc il y a la frénésie extérieure, mais eux ne la ressentent pas forcément.
d'accord, bah écoute, merci pour toutes tes interventions, ton expertise depuis le bord du terrain et tout ça. On va te laisser y aller. On va terminer avec Hugo sur la question, parce que je pense que lui, la frénésie, il la ressent peut-être un peu plus de par là avec la presse écrite. Et à très bientôt, en tout cas, pour peut-être un autre podcast autour de la
presse. Ouais,
comme
avec
ça.
Plaisir.
Écoute,
merci
encore
beaucoup,
merci pour
et
ton
je
passage.
Vous donne rendez-vous pour PSG Monaco, ce soir,
ouais.
Donc vous le montrez pas. Je fais la pub.
On sera là, tu as bien raison, tu as bien raison. Et puis, bah, j'ai mis ton, si vous voulez le suivre sur Twitter, j'ai mis son compte Twitter dans le lien vers la news.
Merci à tous, en tout cas.
Allez, bonne soirée, cool. David. Donc,
bonne
Hugo,
soirée, ciao.
Pour finir, est-ce que toi, tu sens un peu cette frénésie, par contre, au quotidien, puisque toi, tu bah, y es pratiquement, pratiquement tous les jours, tu te retrouves à travailler sur ce sujet-là.
Bien sûr. Non, moi, je suis... la frénésie, je la perçois, effectivement, je la perçois vraiment quand les joueurs du PSG sont en stage à l'étranger. David parlait à l'instant du stage en Asie, je pense qu'il y a des stages aussi aux États-Unis à l'époque, où là on perçoit effectivement une frénésie, qui est, notamment à l'époque de Messi Neymar, qui était totale. Là, sur le début de saison, notamment en déplacement, je vois certains stades où il y a moins de demandes de place qu'à l'époque Messi Neymar. Les stades sont toujours pleins, mais pour en avoir discuté un petit peu avec les attachés de presse et les dirigeants de certains nombre de clubs, il y a des demandes qui sont beaucoup moins importantes en termes de demandes de billets pour le PSG. Donc c'est un peu moins les Rolling Stones, pour reprendre la terminologie utilisée par David à l'instant, qu'à l'époque. Ça, c'est la première chose. Et au Parc des Princes, c'est un sujet qui avait été traité par mon collègue Arnaud il y a quelques semaines, il y a parfois des trous au Parc des Princes, des gens qui ne viennent pas. Et je pense que le parc affiche toujours complet, mais il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont, voilà, qui sont abonnés, qui ont du mal à revendre leur place. Donc la frénésie dont tu parles, une frénésie populaire, je la ressens moins que ces dernières années, mais c'est logique. Voilà, on perd pas deux stars de la dimension de Neymar et Messi sans avoir des conséquences sur en termes de popularité et en termes de frénésie ou en tout cas voilà en termes de voilà de retour de des gens dans les stades. Je pense que c'est assez clair. Moi, je trouve que voilà, on parlait de normalisation de ce point de vue-là aussi. Je perçois ça.
D'accord. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué autour du PSG, c'est à quel point des fois le club va surréagir pour des affaires tout à fait banales ou quelconques. Est-ce que...
Tu penses à quoi ?
Il y a eu des interviews où ils ont fait des trucs genre « machin l'a mal pris », tout ça. T'es là où le club, entre guillemets, communique en off sur des éléments où t'es là, t'as envie de leur dire « mais en fait, vous avez même pas besoin de réagir, puis ça va se tasser, quoi. » Et j'ai l'impression... je crois que c'était une des interviews de Mbappé où ils avaient fait ils en avaient fait des caisses là, mais pourquoi vous perdez votre temps à vouloir démentir, réorienter la pensée ou ce genre de choses, quoi. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est quand arrive la Ligue des Champions, tous ça clignote dans tous les sens. Tu sens pas, toi, autour de la Ligue des Champions, un peu cette... Alors peut-être un peu moins maintenant avec Luis Enrique, quoique il est arrivé, il a dit direct qu'il était là pour la gagner.
Ah oui, complètement.
Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que...
Je perçois comme toi une forme de tension, effectivement, à l'approche des huitièmes de finale des champions et des matchs décisifs. Là, on va en avoir très probablement à Dortmund, bien sûr Newcastle, mais ensuite Dortmund. Une forme de pression, oui. En fait, ça se traduit, et c'est intéressant, par une volonté de contrôler. C'est-à-dire que on nous avait à l'époque... accusé de déstabiliser le club avant les grands rendez-vous de Ligue des Champions, de faire des papiers polémiques. À l'époque, le directeur sportif, le président, ou tel débat entre joueurs. Absolument pas, hein. C'était pas une volonté délibérée de déstabiliser le club. Il n'y avait absolument rien de tout ça. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, effectivement, quand les grands rendez-vous approchent, donc que ce soit des huitièmes de finale ou des quarts de finale, il y a une volonté de contrôler davantage et de savoir ce que le Parisien prépare, ce que RMC prépare, ce que... l'équipe prépare, etc. Effectivement, on sent qu'il y a une forme de tension, il y a une volonté d'un plus grand contrôle par peur, par crainte d'une déstabilisation d'un article qui fâcherait tel ou tel joueur, qui fâcherait tel ou tel clan, etc. Et donc, effectivement, il y a une volonté de contrôle quand la Ligue des Champions arrive.
D'accord. Mais c'est marrant, tu vois, c'est qu'il y a des moments... Parce que David l'exprimait très bien, les joueurs, je pense, ont assez de recul. Et c'est là où l'apport de certains joueurs comme Neymar, qui est imperméable, mais totalement à la pression, ou Keylor Navas a fait beaucoup de bien. Il y a eu des moments où j'ai l'impression que c'est le club qui se stressait tellement, enfin, donc les gens autour des joueurs, qu'ils arrivaient à stresser les joueurs, en fait. Je sais pas si toi aussi tu ressentais ça dans ton travail, dans ton approche ou autre.
Non, je comprends ton propos. Effectivement, il y avait une tension, il y avait, je ne sais pas si régulièrement,
Il y avait des photos voulues de Nasser Al-Khelaïfi avec le directeur sportif de l'époque, etc., où il y avait une forme effectivement de tension, comme si on voulait préparer le match aussi en coulisses avant de le jouer. Et ça, effectivement, je l'ai perçu à une période. Aujourd'hui, bah, tu l'as dit, on est dans une dynamique inverse. On veut dédramatiser, expliquer à quel point c'est pas un objectif en soi, la Ligue des Champions, même si, comme tu disais, Luis Enrique l'a expliqué directement lui. Mais effectivement, au club, ils sont plus du tout dans cette dynamique-là, à la fois chez les dirigeants et à la communication. On est dans une dynamique tout à fait différente, et il y a une dédramatisation par rapport à la Ligue des Champions. Mais de manière effectivement naturelle, il y a une forme de pression qui arrive quand les grandes échéances surviennent.
On verra avant Dortmund, puisque c'est aujourd'hui l'un des grands tournants de la saison. Bon, alors
Bien
déjà,
sûr.
faut battre Newcastle, mais est-ce que les vieux démons du passé vont ressurgir? On verra.
Bah non, mais c'est intéressant de voir comment le PSG, en termes de communication, parce que c'est la thématique du soir, va préparer ses rendez-vous face à Newcastle et face à Dortmund. De quelle manière ils vont essayer de préparer ça, avec est-ce qu'ils vont ouvrir en essayant de dédramatiser et d'expliquer que même s'il y a une élimination, c'est pas dramatique, etc. Ça sera intéressant. Bien sûr, sportivement, on va suivre ça. Mais en termes de communication, bon, la Newcastle, ça va venir très très vite la semaine prochaine. Mais avant Dortmund et en fonction du résultat de Newcastle, il y aura l'enjeu sera plus ou moins considérable. Il suffit qu'il y ait un nul ou une défaite à Newcastle, et là, ça pourrait prendre des proportions voilà, quasiment dramatiques, hein, sportivement en tout cas. Donc, ça sera intéressant effectivement d'analyser la pression et la manière, la stratégie mise en place par le club avant le grand rendez-vous de Dortmund, et puis la manière dont Luis Enrique va le faire aussi. Ça, c'est toujours intéressant de voir comment la première année, le nouveau coach gère ces grands rendez-vous-là en termes de communication. Ce sera hyper intéressant à décrypter, et Luis Enrique a une habitude de ces grands rendez-vous, à la fois en club et en sélection, et avant en tant que joueur. Donc, on va voir comment il gère ça. Moi, je pense qu'il est très habile et qu'il va réussir voilà, à tirer la pression à lui. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est hyper, hyper intéressant à décrypter.
Ouais, mais c'est vrai que enfin, ce qui était très drôle lors de la conférence de presse de présentation, c'est que le PSG qui fait dire depuis 2 mois, maintenant on est dans la patience, la Ligue des Champions, on verra. Et lui, il arrive, il met les pieds dans le plat. Ah oh non, 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 moi je suis venu pour la gagner, hein. Je viens
Non,
pas
mais
pour
c'est un
passer les poules.
compétiteur. C'est ça qui est c'est un immense compétiteur. On l'a vu pour les plus anciens en tant que joueur. C'est quelqu'un qui avait une volonté de gagner exceptionnelle. Voilà, c'est quelqu'un qui est entre guillemets un mauvais joueur, dans le sens où il avait une détestation de la défaite. Et moi, ce discours-là initial, même si effectivement tu l'as tout à fait raison, Philo, de dire que ça a fait tiquer en interne, parce que ça correspond vraiment à la réalité. Mais il est arrivé. C'est quelqu'un qui a plus de 50 balais. Il a des ambitions. Il a des conviction, il est venu pour quelque chose en particulier, et lui, quelque chose en particulier, c'est tout gagner. Et dans tout gagner, c'est le championnat de France, c'est les coupes, mais aussi effectivement la Ligue des Champions. Et il l'assume, et c'est pour ça qu'il l'a dit. Et voilà, c'est intéressant de ce point de vue-là qu'il ait pris en main sa communication et tout de suite annoncé que non, non, moi je suis là pour aller la chercher. Et c'est pour ça qu'il y aura une pression particulière là, Newcastle et Dortmund, parce que c'est bien de l'avoir annoncé. Mais c'est bien aussi que ça se traduise par des faits.
Oui, c'est ça. C'est la pression, il l'a mise tout seul et puis il
Bien
va devoir
sûr,
l'assumer.
bien sûr.
Après, c'est pas le genre à
Complètement.
fuir ses responsabilités. Hein.
Non, non,
Voilà.
complètement, complètement. Au contraire, il aime, on l'a vu en conférence de presse, et il aime la bagarre, il se nourrit de ça. Et moi, je trouve ça dommage dans le sens où parfois, c'est au détriment de son propos, voilà, de l'intérêt de son propos, ce dont on parlait tout à l'heure. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'aille pas au fond des choses, qu'il ne se fasse pas l'effort. Mais je pense que c'est lié à son caractère, mais aussi lié à une forme de mépris. Peut-être le terme est un peu dur, mais en tout cas, voilà, d'incompréhension par rapport aux journalistes. C'est une corporation qu'il n'apprécie pas.
Qu'il n'a jamais
Moi, ce que
apprécié.
je. Exactement. Moi, ce que j'aurais envie de lui dire si je le voyais en tête à tête, c'est qu'il faut qu'il dépasse ça. Il ne s'agit pas de s'adresser, de communiquer avec Y, Z de l'équipe ou du Parisien ou de RMC. Il s'adresse avant tout aux supporters du PSG, à travers nous. Moi, c'est ce que j'aurais envie de lui dire. Donc voilà,
Ouais.
quand il refuse le dialogue ou quand on l'échange, en tout cas quand il élude les thématiques, je trouve ça dommage. non pas pour nous, parce que voilà, mais aussi, mais surtout pour les supporters du PSG, les fans du club de la capitale, quoi.
Ouais. Écoute, ce sera la conclusion. On a une heure et demie. T'avais dit une heure, mais tu t'arrêtais plus de parler. Alors, je suis désolé. Au bout d'un moment, faut assumer, Monsieur Delon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a balayé pas mal de sous-thèmes, un peu comment le PSG fonctionne aussi par rapport à la presse, parce que c'est pas aussi évident que certains l'imaginent de l'extérieur. Merci à Juan, Saint-Just 1793, Darkfield 77 et Ulissi pour les subs en cours de podcast. C'est très gentil à vous. On revient à notre quotidien lundi prochain. On a un gros podcast avec le débrief de PSG Monaco, la présentation de PSG Newcastle. Donc, on va revenir à des thèmes beaucoup plus classiques. Je suis désolé. Je vous avais promis un podcast un peu spécial pour la trêve internationale. Il était là. On a eu Hugo qui nous a même rejoint. Donc, pour vous dire, c'était dur de l'avoir. Mais bon, il avait plein de choses à dire. Vous avez pu le constater. On vous dit donc, on dit la prédiction pour le prochain 11 de départ. Attendez l'entraînement de demain.
Celui de Monaco, là, c'est pas simple. Hein. Oh là là, la compo, là, celle-ci, elle est pas simple.
C'est très très dur à prévoir. Là, il faut chercher. Là, typiquement, il faut aller chercher dans les anciennes compos de Luis Enrique, notamment celles post-trêve. Il faut savoir un peu qui a les adducteurs qui sifflent parce qu'il a passé 10 heures dans l'avion.
Non, mais c'est tout à fait le cas, Philo. Il faut aller plonger dans les archives. Il faut se référer à ce qu'il fait. C'est un entraîneur comme ça. Pour le coup, c'est pas si compliqué que ça. Il faut aller se plonger là-dessus. Voilà, on s'est trompé à l'équipe sur la compo de Reims avec Soler à droite, mais finalement, elle était assez lisible cette compo avec Mukiele à gauche et Soler à droite. On va pas tergiverser là-dessus et expliquer ça pendant des heures. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui s'intéressent, la compo de Monaco, il faut aller la chercher dans les archives.
Voilà. Écoutez, ça sera la conclusion. Et à lundi, donc. Encore merci pour votre fidélité, tous vos gentils mots. J'espère qu'on a répondu à plein de questions. Et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Alors là, Hugo, faut dire au revoir, normalement.
Bonne soirée à tous.
Au revoir.
Je termine là-dessus. Bonne soirée à tous, à bientôt.
Au revoir et vive l'open source, n'oubliez pas.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.